Vous êtes sur RTL.
RTL, bonsoir. Julien Cellier, Vincent Derosier et Cyprien Simon.
Et bienvenue à tous, RTL, bonsoir. C'est donc parti avec la joyeuse bande. On va vous accompagner en cette fin de journée avec Cyprien Sini, avec Vincent Derosier, avec Peggy Broche, avec les petits rigolos, Alex Viseur, avec Marc-Antoine Lebray. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Pour toujours plus d'imitations, le Breaking News dans 10 minutes. Marc-Antoine, quelle sera la nouvelle voix?
Bonjour Marc.
Ah, la marionnette.
Et, et je vais parler du gouvernement aussi. Salut les trucs.
Vous tenez bien les marionnettes aussi. Quid de la visioconférence dans une demi-heure, Alex?
Eh bien, la fin du voyage au Brésil de notre ami.
Ah oui.
Pas de blague aujourd'hui sur Raoni. Ah. Je sais que vous aimez bien ça.
Oui, le monsieur qui a un manche-disque. A été bonne votre blague.
Je vous dévoile aussi nos invités du soir. 18h15, notre invité événement, Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale. Après le départ du proviseur menacé de mort à Paris, après les menaces d'attentats en série dans nos collèges et lycées, sa première réaction.
À 18h40, reconstitution dans la mystérieuse affaire Émile. 17 témoins convoqués. Qu'attendent les gendarmes? L'ancien procureur Jacques Dallest sera avec nous.
Et puis après 19h, la deuxième heure de RTL Bonsoir avec un live de Texas, s'il vous plaît. Le mythique groupe aux 40 millions d'albums vendus revisite ses tubes dans un disque piano-voix. Charline Spiteri, la chanteuse, sera notre grande invitée.
Il y aura aussi évidemment de la cuisine, des surprises, des cadeaux, notamment une semaine de vacances en bateau à gagner pour vous les auditeurs dans le grand quiz de RTL Bonsoir. Avant toute chose, 10 minutes pour tout savoir, voici le journal.
RTL, bonsoir.
Avec à la une, Vincent.
La disparition d'Émile, revécue minute par minute aujourd'hui dans le minuscule hameau du Haut-Vernay. Que la parole se libère dans la grande muette. Le gouvernement dégaine une circulaire pour en finir avec les agressions au sein de l'armée. C'est une info RTL. Et puis trop d'opacité sur vos étiquettes de lasagne ou vos boîtes de petits pois. L'UFC Que Choisir dresse la liste des bons et des mauvais élèves.
Tendance météo demain, Peggy.
Avec un temps bien pluvieux du sud-ouest au nord-est et un fort coup de vent sur l'Auvergne-Rhône-Alpes.
Le journal, Julien Cellier, Vincent Derosier.
17 personnes convoquées à 1200 mètres d'altitude au Haut-Vernay pour tenter de comprendre comment Émile a disparu il y a bientôt 9 mois. Famille, voisins, témoins réunis dans le hameau totalement bouclé pour une mise en situation.
Maxime Lévy, vous êtes justement l'un des envoyés spéciaux de RTL dans les Alpes de Haute-Provence. Bonsoir.
Bonsoir.
Les gendarmes ont voulu revivre les dernières minutes de la journée, 17h15 environ, ce 8 juillet, lorsque le petit garçon a disparu.
Oui, absolument. Toute la journée, depuis 9h ce matin, les enquêteurs de la gendarmerie ont souhaité rejouer les dernières minutes qui ont précédé et qui ont suivi la mystérieuse disparition du petit garçon de 2 ans et demi. En fait, il se passe 1h15 ce dimanche 8 juillet 2023, 1h15 de doute, où la trace d'Émile a, semble-t-il, complètement disparu. 17h, il échappe à la surveillance de son grand-père. 17h15, il est aperçu pour la dernière fois par 2 témoins. 18h12, après que ses proches aient appelé le petit garçon en continu, les gendarmes sont prévenus. Une période de temps vue et revue avec ses proches et les témoins dans de multiples auditions qu'il était important de resituer sur place, de visu, notamment parce que cela peut amener à de nouveaux témoignages, mais aussi à des incohérences qui peuvent mener les enquêteurs sur de nouvelles pistes, voire sur un potentiel suspect.
Merci Maxime Lévy, envoyé spécial pour RTL du service police-justice.
Le gouvernement ne veut plus que les victimes d'agressions physiques ou sexuelles dans l'armée se taisent.
C'est une information RTL. Le ministère des Armées vient de publier une circulaire, Célestin Bougère. Vous l'avez consulté ce document et il prévoit des règles strictes pour mieux protéger les victimes.
Oui, d'abord, dès que la victime présumée fait part d'une agression ou d'un viol qu'elle a subi, un signalement doit obligatoirement être effectué au procureur de la République, et ce, même si la victime a déjà porté plainte. Une procédure qui déclenche tout de suite une enquête administrative ou de commandement. Dans un deuxième temps, l'agent ou le militaire soupçonné d'être l'agresseur doit être immédiatement suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Le message est clair, ce n'est pas à la victime de changer de régiment, mais bien à l'agresseur d'être éloigné. Et puis cette circulaire prévoit également un accompagnement des victimes sur le plan financier. Cette fois, l'État prend en charge les frais d'avocat et de procédure pour les personnes qui souhaitent porter l'affaire en justice.
Merci Célestin pour ces précisions.
Et d'après nos infos RTL, plus de 120 témoignages dans l'armée en une semaine seulement ont été transmis à Aurore Berger, la ministre en charge des discriminations.
Ainsi qu'à la députée Renaissance Laetitia Saint-Paul, qui a elle-même été victime d'humiliation lorsqu'elle était dans l'armée. Elle raconte.
Les femmes en lycée militaire en classe préparatoire sont accueillies à boulets rouges avec l'espoir de les faire démissionner parce que la place de Bobonne est à la maison.
La place de Bobonne, c'est ce qu'on vous a dit ?
C'était complètement institutionnalisé. Les femmes étaient les grosses, ceux qui leur parlaient étaient les sous pour sous-hommes. Tout ce petit monde, aux yeux des tradis, n'avait absolument rien à faire là. J'ai décidé que c'était pas une bande d'abrutis de décider ce que j'allais faire de ma vie. Mais chaque jour, il fallait réinterroger son idéal en se disant « Mais les valeurs républicaines, ce n'est pas ça. Je ne pouvais pas imaginer céder du terrain à cette idéologie nauséabonde. »
La députée Renaissance Laetitia Saint-Paul avec Aude Vernuccio. Et ne manquez surtout pas le dernier podcast sur RTL.fr, Tout savoir sur, consacré aux violences physiques et sexuelles dans l'armée française. Il est en ligne dès maintenant.
L'événement est à l'agenda britannique chaque année, la messe royale juste avant Pâques. Mais cette fois-ci, la prise de parole du roi était très très attendue.
Charles III n'était pas présent pour ce jeudi saint, mais le son de sa voix a bien résonné pendant plus de 4 minutes dans la cathédrale. Bonsoir Marie Billon.
Bonsoir.
C'était la première fois qu'on entendait le roi depuis l'annonce du cancer de la princesse Kate. Et il a fait une allusion très subtile à la période difficile que traverse sa famille.
Ouais, le message était celui du monarque et du chef de l'Église d'Angleterre, solennel, commençant par une lecture, longue lecture d'un extrait de la Bible. Mais Charles III a quand même réussi à faire passer un message plus personnel.
It is for me... C'est pour moi une cause de grande tristesse de ne pas pouvoir être avec vous tous aujourd'hui. Nous avons besoin et bénéficions grandement de ceux qui nous tendent une main amicale, surtout dans les moments difficiles.
Impossible de ne pas y voir une référence à son cancer et à celui de Kate, mais voyant le verre à moitié plein, l'évêque de Worcester a dit à la chaîne Sky News que l'obligation que ses médecins ont imposée au souverain de se tenir éloigné lui a permis de faire passer un message plus privé qu'il n'aurait pu autrement.
Cet événement a été très fort parce que nous sommes heureux et honorés de la présence de la reine, pour qui nous avons beaucoup d'affection. Mais le roi nous a manqué.
C'est Camilla qui a distribué les aumônes traditionnelles dans des petits sacs de cuir rouge et blanc à 75 femmes et autant d'hommes, 75 ans pour l'âge de Charles III. On lui a donné à la reine plein de cartes pour son mari et sa belle-fille qu'elle a acceptées avec grâce.
Merci Marie Billon, correspondante de RTL à Londres.
On en vient à cette question maintenant, c'est du foot. Quel bleu aux Jeux Olympiques ? Lyon et Lille se disent prêts à libérer leurs joueurs pour les JO de Paris cet été.
Hier sur RTL, Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, se disait réticent à libérer ses internationaux pour les Jeux Olympiques. L'entraîneur de l'OL, l'Olympique Lyonnais, Pierre Sage, lui, y voit que du bonus.
Pour un club qui s'appelle Olympique Lyonnais, ce serait dommage quand même que les joueurs ne participent pas aux Jeux Olympiques. On a beaucoup de joueurs internationaux dans notre effectif. C'est bien qu'ils soient en passe de participer à des belles compétitions qui les font progresser, qui les font rêver, qui leur font vivre des superbes choses. Donc on est très content qu'ils aient la possibilité de participer à ces choses-là pour être sélectionnés, représenter son pays. Et je trouve que c'est un honneur.
Ouais, alors vu le niveau de Lyon cette année, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle.
Pour un peu plus. Par Raphaël Vantard, c'est pas sympa.
Allez, dans quelques secondes, la suite du journal avec ce constat de l'UFC. Que choisir ? 7 produits sur 10 dans nos supermarchés sont, comment dire, compliqués à comprendre en termes d'origine. En tout cas, tout est fait pour nous le cacher. On va accueillir notre imitateur Marc-Antoine Lebray dans quelques minutes, qui va s'amuser avec plusieurs ministres et donc Jean-Marc, la marionnette de Jeff Panaclock. Alex Vizorek nous rejoindra à 18h30. Et puis, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, est notre invitée événement dans 7 minutes maintenant. Vous restez avec nous.
RTL, bonsoir.
RTL, bonsoir.
Julien Cellier, Vincent Derosier.
Et donc la suite du journal, des produits transformés, des étiquettes trop opaques, l'UFC Que Choisir révèle qu'on ne connaît pas l'origine de 69% des produits préparés.
Et parmi les mauvais élèves, Fleury Michon, Casse-Grain ou encore Sodebo. Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir.
Alors ce qui est frappant dans cette étude, Pierre, c'est que certaines marques jouent la transparence et d'autres, mais alors pas du tout.
Oui, parmi les bons élèves, le spécialiste du plat préparé, Marie, 80% des ingrédients sont précisément indiqués sur l'emballage. C'est 70% chez Bonduel. Pour l'UFC Que Choisir, ça montre que c'est possible. Et donc, les marques que vous avez citées, Casse-Grain, Sodebo, Fleury Michon, qui affichent la provenance de moins d'un produit sur deux, n'ont aucune excuse quand elles ne jouent pas le jeu.
Pierre, le gouvernement va dévoiler un nouveau logo le mois prochain. Origine Info, c'est un peu le Nutri-Score de l'origine des produits. Pour l'idée, c'est quoi ? Remettre de la transparence dans l'origine de tous ces plats qu'on peut trouver dans nos magasins ?
C'est ça, mais ça ne servira à rien parce qu'il sera facultatif, ce logo. Voilà. C'est tout l'objet de la démonstration du jour par l'association de consommateurs. Olivier Andreau, spécialiste conso à l'UFC Que Choisir.
S'il n'y a pas d'obligation, eh bien ça ne changera rien. Tout simplement parce que les fabricants vertueux qui indiquent déjà l'origine, en tout cas des principaux ingrédients, il y a tout à parier qu'ils vont utiliser cet affichage. En revanche, ce qui est important, c'est de faire la transparence sur les autres fabricants, c'est-à-dire ceux qui n'indiquent pas l'origine des ingrédients. Eh bien, pour nous, il y a tout à parier que là, ils n'utiliseront pas cet affichage s'il reste optionnel.
Bon, on continue avec les mauvais élèves. Il n'y a pas que les industriels. Il y a certains distributeurs aussi avec leur marque propre, les fameuses MDD. C'est le cas pour Carrefour, Lidl et Intermarché. Moins d'un ingrédient sur deux dont la provenance est indiquée à l'arrière du paquet.
Merci beaucoup, Pierre Herbulot. Le temps, s'il vous plaît, Peggy, pour demain.
Avec une perturbation pluvieuse qu'on va retrouver toute la journée qui va stagner du sud-ouest au nord-est. Des pluies continuent tout au long de la journée. Sur le nord-ouest du pays, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance entre nuages, éclaircies, quelques averses localement orageuses le matin vers le nord de la Bretagne. Donc ce ciel de traîne entre la Bretagne, la Vendée, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et puis dans le sud-est, on aura un temps bien nuageux le matin, des pluies sur les Cévennes et beaucoup de vent, vent violent sur les Alpes, le Massif central, les Pyrénées. D'ailleurs, notez que le Rhône et la Loire passent en vigilance orange, vent violent à partir de minuit. Et peu d'évolution, je vous le disais dans la journée, juste un peu plus d'éclaircies entre la Méditerranée, les Alpes et la Franche-Comté. Et attention, le risque d'avalanche est important sur les Pyrénées. Côté température, de 6 à Caen à 15 à Montpellier le matin, elles sont en hausse partout. 9 à Paris et Bordeaux, 14 à Lyon. Et les maximales, de 11 à Limoges à 25 degrés demain à Perpignan, 12 à Brest, 13 à Orléans, 14 à Bordeaux, 15 à Paris, 17 à Dijon, 18 à Clermont-Ferrand, 19 à Nîmes et 21 à Marseille.
Merci. Allez, on prépare les abdos maintenant. Marc-Antoine Lebray veut vous faire rire. Place à notre imitateur. C'est parti pour Lebray.
King News.
Allez, on va parler du déficit.
Allez.
Gabriel Attal, le Premier ministre, a réuni le gouvernement pour trouver des solutions. Voici ce qui s'est passé.
Salut les Avengers. On ne vous apprend rien. On n'a plus d'oseille, on n'a plus de moulaga, on est en yinche. Bref, c'est la hesse. J'avais trouvé la solution, mais malheureusement, mon chien a mangé mes devoirs. Du coup, à qui a des idées ? Bruno Le Maire ?
Eh bien, je pense qu'on ferait mieux de demander au ministre de l'économie.
Justement, c'est toi.
Ah. Dans ce cas, je pense qu'on ferait mieux de ne pas demander au ministre de l'économie.
Merci. Amélie Oudia Castéra, tu proposes quoi ? À part ce joli carré Hermès qui met tes cernes en valeur ?
Merci. On peut faire des économies au JO ? Genre, je chante à la place d'Aya Nakamura. J'ai comment ma reprise de Dja Dja a cartonné ? J'ai largement le niveau. Oh, Dja Dja. Il n'y a pas d'argent, Dja Dja.
Merci, Gérald Darmanin.
Pour ma part, je peux récupérer toutes les saisies des points de deal pour les revendre à Joël Guerriot et Damien Abad.
Laisse tomber, GG, t'auras jamais assez de drogue. De toute façon, il y a déjà Louis Boyard qui les fournit. Non, il nous faut une solution réaliste et efficace. Ah, je sais. On va attendre la campagne 2027 pour dire qu'on a la solution, mais pour le prochain quinquennat.
Allez, une voyante ventriloque maintenant est suspectée d'avoir escroqué plusieurs personnes, dont le maire de la ville d'Agden.
Salut les Troducs. Ça va? Alors, il est content.
Il a info Jean-Marc sur RTL.fr pour son
ouais, merci pour l'explication. Hein. Ouais. Le maire d'Agde qui finit à poil, c'est pas non plus un scoop. Jean-Marc.
Il se prend pour Jeff Panacloc, Marc-Antoine. Ouais. Bonsoir Jean-Marc.
Une voyante ventriloque. On dirait un numéro de Patrick Sébastien. Non mais une voyante ventriloque. Et pourquoi pas un hypnotiseur violeur? Ah non, on a déjà ça. Ou même un journaliste humoriste. Ah bah ça existe aussi.
Ah bon ?
Ça va Cyprien ?
Non.
Je t'avoue que c'est original, une voyante ventriloque. Hein. Ça change des voyantes pétomanes qui racontent que de la merde. Ah ! Je connais même une voyante pétomane belge qui prévoit une victoire de Diable Rouge à l'Euro. Jean-Marc !
Merci, merci Jean-Marc et Jeff Panacloc.
Ah, il y a le moyen.
Ouais. Magnifique, magnifique. Booba, c'est aujourd'hui que sort votre série Ourika sur Amazon Prime. Avec une histoire qui se déroule pendant les émeutes de 2005.
Ouais, bien, Alter, Soir Bon, c'est la famille, c'est Cyprien. Boula Z représente, toi-même, tu sais. Ouais, moi, c'est comme une partie de Motus, frérot. Moi, je suis la boule noire. Easy. Punchline dans vos grands-mères qui croient que P. Diddy, c'est le frère de Lady Di. Ok. En fait, ma série repose sur les émeutes, les armes et la drogue. Bref, une belle comédie romantique comme je les aime. J'espère que vous allez regarder l'équipe. En plus, comme ça se passe en 2005, ça vous donnera l'impression d'être sapé à la mode. Punchline dans vos grands-pères qui croient que Al Pacino, c'est le frère de Alzheimer.
Et depuis hier, l'ouest de la France est touché par la tempête Nelson avec des rafales à plus de 180 km/h.
Oui, oui, mon cher Vincent, ici la tempête Nelson. La tempête casse-couille comme une interview après un match de 4 heures. Écoutez, pour l'instant, 6 départements sont en vigilance orange à cause de moi et mes vents. Hier, j'avais des vents à 180 km/h. Aujourd'hui, j'ai des vents à plus de 100. Eh, Nelson, elle prend du charbon ou un snack. Puis c'est rien à côté de la tempête Candeloro. Hein. Ah, je peux te dire qu'il va y avoir des vents sous la couette. Hein. Ah bah, je vais soulever un max de jupettes, je te le dis. Voilà, comme vous le voyez, le pire reste à venir.
Le pire est toujours à venir avec vous, Marc-Antoine. Et pour ceux qui en veulent plus, Marc-Antoine sera en spectacle le 3 mai à Carcassonne, le 18 mai à Caraman, c'est près de Toulouse.
RTL. Dans l'Ouest. Salut les producs.
Salut Marc-Antoine. RTL, bonsoir. La suite, c'est maintenant. Notre invité événement ce soir, c'est la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet.
Sa première réaction ce soir depuis le départ du proviseur menacé de mort à Paris et après les menaces d'attentats en série qui perturbent nos collèges et lycées.
Julien Cellier, Vincent Derosier et Cyprien Simi.
RTL, bonsoir.
Le pro. Julien Cellier, Vincent Derosier et Cyprien Signy.
RTL bonsoir jusqu'à 20h.
RTL bonsoir, 18h19. On accueille maintenant notre invité événement, c'est la ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir Nicole Belloubet.
Bonsoir monsieur.
Nicole Belloubet, le départ du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris provoque une vive émotion. Ce proviseur, on le rappelle, a quitté ses fonctions pour raison de sécurité. Il était menacé de mort après une altercation il y a un mois et demi. Il avait demandé à une élève d'enlever son voile. Il a été reçu, ce chef d'État, établissement par le Premier ministre hier. Est-ce que ce départ, c'est une défaite, c'est un échec pour l'école, pour l'État? Est-ce que vous le considérez ainsi?
Je considère que c'est un événement extrêmement grave parce que, au fond, ce proviseur, et lorsque nous l'avons reçu hier avec le Premier ministre à Matignon, il l'a dit, il n'a fait que son travail. C'est-à-dire qu'il demandait à l'élève de respecter les lois de la République. Or, dans un établissement, évidemment, ces lois de la République, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Et donc, il a demandé ce respect-là. Il n'a pas été écouté, et donc il n'a pas été respecté, ces lois n'ont pas été respectées par l'élève. Ce qui s'en est suivi est évidemment inacceptable.
Vous qui l'avez rencontré, il est dans quel état, ce proviseur? Et est-ce qu'il est sous protection policière ce soir?
Alors, si vous voulez, dès que les événements se sont produits, quand je dis on, c'est collectif. C'est-à-dire que je fais allusion aux forces de l'ordre, au pouvoir judiciaire, je fais allusion aux services académiques qui, en tout premier lieu, ont dressé autour de ce proviseur un bouclier de protection. Je crois que c'est notre rôle. Nous devons vraiment protéger nos personnels. Il y a, me semble-t-il, l'État un impératif qui est celui, vraiment, de protéger ceux qui font vivre la République et parmi eux, les personnels de l'éducation.
Ça veut dire qu'il
nationale.
Est sous protection policière.
Alors, il est absolument protégé, évidemment, il n'est pas sous protection policière au moment où nous parlons, mais il a un accès direct à la police, avec des dispositifs que je n'ai pas ici à déployer, et évidemment, il a la protection judiciaire, il est suivi en permanence.
Alors l'État, le rectorat va porter plainte contre l'élève pour
absolument.
Dénonciation calomnieuse, elle a absolument. Accusé le chef d'établissement de violence. Pourquoi cette plainte ?
Le proviseur a lui-même porté plainte, évidemment, puisque lorsque les événements se sont produits, il a été, comme je le disais tout à l'heure, accompagné par les services qui lui ont demandé s'il acceptait de porter plainte, ce qu'il a fait. Et il est tout à fait normal que l'État vienne à l'appui de nos personnels, et c'est ce que nous faisons là, en portant plainte pour dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire que nous considérons que cette étudiante, en accusant ce proviseur de l'avoir molesté, donné une gifle, a procédé à une dénonciation calomnieuse. Nous portons plainte, évidemment, qui montre qu'au fond, l'État est aux côtés des proviseurs. C'est notre rôle. Nous voulons vraiment être près d'eux. Et ce bouclier dont je parlais, qui est composé de plusieurs mesures, est destiné à dire que nous ne laissons pas seuls nos personnels.
Madame la ministre, RTL a eu hier l'élève au téléphone, la jeune fille. Elle a aussi quitté l'école. Elle arrête l'école. Elle regrette la tournure des événements. Elle se dit, je cite, « désolée ». Quel regard vous portez sur ce début de mea culpa ?
Je n'ai pas à avoir un regard sur ces débuts de mea culpa. Moi, je considère les faits tels qu'ils se sont déroulés. Si nous voulons vivre ensemble, il faut respecter des règles. Dans un établissement scolaire, il y a des règles. Ces règles sont celles, entre autres, du respect de la laïcité. Il n'y a pas à juger ceci ou cela. Elles doivent être respectées, c'est tout.
Cette jeune fille, elle nous a expliqué aussi travailler aujourd'hui comme animatrice dans une école maternelle. Je précise que c'est du déclaratif. Est-ce que vous comprenez que le fait qu'elle puisse travailler dans une école puisse interpeller?
Bien sûr, ça peut interpeller. Juridiquement, il n'y a pas de raison de s'y opposer. Mais du moins, tant qu'elle ne commet pas d'autres actes qui iraient à l'encontre des règles qui doivent être respectées dans l'école. Voilà ce que je peux dire là.
Vous parlez de bouclier pour protéger les proviseurs. Oui. Alors, ce monsieur a été menacé sur les réseaux sociaux. Un homme sera d'ailleurs jugé dans 3 semaines. On a la sensation quand même qu'il y a une forme d'impuissance, que l'État n'arrive pas à protéger les enseignants face aux réseaux sociaux, en tout cas.
C'est une des difficultés, moi, je ne le cache pas. La diffusion d'informations malveillantes sur les réseaux sociaux est une véritable difficulté. Nous ne sommes pas sans moyens. La plateforme Pharos nous permet d'agir immédiatement, de supprimer des messages haineux, et donc nous ne sommes pas sans moyens face à cela. Les enquêtes qui sont menées par des services d'enquête spécialisés nous permettent également de savoir et de retrouver assez rapidement quels sont les auteurs de ces messages. Nous le voyons dans la situation actuelle sur les espaces numérique de travail. Donc, je crois que nous ne sommes pas sans moyens. Nous ne pouvons pas être, évidemment, précéder la diffusion des messages. En tout cas, c'est effectivement une difficulté, mais nous ne sommes pas sans moyens et nous les mettons tous en œuvre.
Nicole Belloubet, il y a eu les assassinats de Samuel Paty, de Dominique Bernard. On sait que les islamistes, aujourd'hui, ciblent notre école. Comment y préserver la laïcité? On sait qu'il y a environ 6 profs sur 10 qui s'auto-censurent en classe. Est-ce que nos profs aujourd'hui, et je pense notamment à des profs débutants, on avait cette discussion hier avec Yanis Roder, spécialiste de la laïcité, prof d'histoire géo, qui était à votre place, est-ce que les profs débutants, par exemple, aujourd'hui, sont assez formés, sont assez préparés pour être en mesure de corriger, d'expliquer, de raisonner un élève qui dérape en classe, parce que ça arrive très régulièrement?
Alors, il y a plus, pardonnez-moi, la réponse devrait être un peu longue, donc je vais essayer d'être clair. Il y a 3 moyens d'aider et d'accompagner, parce qu'aider n'est pas le mot, d'accompagner nos professeurs dans leurs enseignements qui sont fondés sur la science. C'est ça, au fond, ce que doit faire l'école. 3 moyens de les aider. La formation, vous le dites vous-même. Nous déployons des actions de formation continue extrêmement importantes et nous allons, dans quelques temps, rénover la formation initiale des enseignants en faisant valoir plus encore que ça ne l'est les valeurs de la République. Nous avons également, aux côtés de nos professeurs et qui peuvent être disponibles à leur demande, des cellules d'appui pédagogique ou des équipes académiques valeurs de la République qu'ils peuvent mobiliser, qui peuvent les accompagner éventuellement dans leur cours, s'ils le souhaitent, c'est évidemment libre, ou bien en tout cas à côté, qui peuvent prendre en charge une difficulté. Je crois que tout cela est évidemment extrêmement important. Et bien sûr...
Mais quel conseil vous donneriez à un prof qui se retrouve face à un élève qui est en train de déraper, qui tient un propos qui dépasse la ligne de la République, qui remet en cause la laïcité? Comment réagir à ce moment-là?
Il me semble que soit l'enseignant dispose des moyens, soit scientifiques, soit des moyens de prise en charge de la classe pour réagir immédiatement, soit il peut demander à ce que ses équipes académiques Valeurs de la République viennent immédiatement, elles sont disponibles très vite dans l'établissement pour traiter une situation difficile. J'entends cette difficulté de nature pédagogique. Il y a plusieurs leviers qui peuvent être actionnés. En tout cas, moi, ce que je dis à nos enseignants, c'est ne restez pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes à vos côtés pour vous appuyer si vous en ressentez le besoin. Et il ne faut pas, pardonnez-moi, je souhaite qu'il n'y ait pas d'autocensure. Nos enseignants sont là pour diffuser ce que sont les programmes de la République. Ils ne doivent pas rester seuls. Nous sommes en appui.
Et ce message, on imagine qu'il va être entendu parce que des dizaines et des dizaines d'établissements ont été la type de menaces d'attentats ces derniers jours, oui. Dans plusieurs régions. Vous vous rendrez, je crois, dans un lycée bordelais.
Alors demain je me rends effectivement dans un lycée de Bordeaux qui a subi, je dirais, une double attaque, c'est-à-dire à la fois par les réseaux sociaux, par les espaces numériques de travail où sont entrés les messages malveillants qui ont été diffusés un peu partout sur le territoire. Et puis par ailleurs, il y a eu aujourd'hui des messages qui, via Gmail, qui visaient des enseignants nommément. Donc je souhaite vraiment être aux côtés de cet établissement.
Et justement, un jeune de 17 ans a été interpellé près de Paris aujourd'hui. Alors ces menaces, elles sont de quelle nature, Nicole Belloubet? C'est une mode stupide et malveillante, simplement?
C'est ce que je souhaite. Stupide est un mot faible. C'est malveillant. D'abord, le contenu des messages est plus que stupide. Il est gravissime. Donc, moi, je le dis ici, les personnes qui émettent de tels messages, évidemment, seront poursuivies. Et nous y veillerons, et elles seront sanctionnées. La justice, je ne suis pas le pouvoir judiciaire qui est indépendant et c'est heureux, mais la justice est sévère sur les fausses alertes à la bombe ou sur ce type de messages malveillants. Donc vraiment, je trouve qu'il se passe là des choses gravissimes que nous ne pouvons pas laisser impunies.
Vous l'avez dit, ces menaces d'attentats sur nos lycées, sur nos collèges, elles arrivent via les ENT, sont les espaces numériques où les élèves travaillent.
Que les parents et les élèves connaissent bien. Puisque
les
ENT, c'est là
où on voit les notes, voilà, on voit les appréciations, les bulletins.
Visiblement, ces ENT, ils ne sont pas assez sécurisés aujourd'hui.
Alors,
il y a des failles ?
Les espaces numériques de travail, qui effectivement sont des lieux d'échange extrêmement importants, les actes malveillants qui ont été commis, c'est par des piratages de comptes élèves. Donc, si vous voulez, dès que cela s'est produit, nous avons bloqué les comptes. Et là, en lien avec les régions et les départements, et j'ai parlé tout à l'heure avec Carole Delga, la présidente de l'Association des régions de France, et j'aurai François Sauvadet très vite, nous allons suspendre la messagerie dans les ENT, parce qu'il faut, en tout cas à titre préventif, arrêter ces élèves.
Ça veut dire
nous allons
que
le faire.
Les élèves, là, dans les heures qui viennent, n'auront plus accès à la messagerie de leur ENT.
Absolument, pendant quelques temps, jusqu'aux vacances de printemps sans doute, pour que nous puissions, le cas échéant réinitialiser les comptes de nos élèves et sécuriser davantage encore, ça ce sera peut-être à plus long terme, l'accès à la messagerie des ENT.
Vous avez aussi peur que nos enfants soient exposés à des contenus violents parce qu'on sait que dans ces menaces, et notamment à Paris, les messages étaient accompagnés de violences.
Absolument, il y avait des vidéos absolument terribles. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas laisser proliférer ce type de messages, de menaces, de vidéos. Et c'est la raison pour laquelle la suspension, en tout cas provisoire, de ces messageries me semble indispensable.
Merci beaucoup Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale. Vous étiez ce soir notre invité événement dans RTL Bonsoir, l'émission qui continue avec votre RTL Inside qui arrive.
RTL au Guyana ce soir, un tout petit pays d'Amérique du Sud, assis sur un gigantesque tas d'or noir, un immense gisement qui vient d'être découvert. Et soudainement, les pays attirent toutes les convoitises.
La visioconférence d'Alex Vizorek également. Quel est le menu, Alex ?
Plein de trucs très drôles, mais rien sur vous, madame.
Ah,
mais je ne vous cache pas. Au nom de tous les humoristes, votre prédécesseuse nous manque. Castera revient.
Je lui transmettrai.
À tout de suite.
Julien Cellier, Vincent Derosier et Cyprien Simon. RTL, s'informer ensemble.
RTL, bonsoir.
Julien Cellier, Vincent Derosier.
Et avant Alex Vizorek, avant RTL Inside au pays de l'or noir, les trois infos à retenir ce soir, Vincent.
Une journée pour comprendre comment le petit Émile a disparu il y a 9 mois. 17 personnes ont été convoquées pour une mise en situation exceptionnelle dans le hameau du Haut-Vernay. Origine inconnue, 69% des ingrédients des produits alimentaires préparés ne sont pas connus. L'UFC Que Choisir pointe les mauvais élèves. Parmi eux, Fleury Michon, Casse-Grain ou encore Sodebo. Et puis à l'instant, annonce qui concerne les parents et les enfants. Nicole Belloubet, la ministre sur RTL, annonce la suspension de la messagerie sur les espaces numériques de travail.
La tendance météo pour demain, Peggy.
Avec un temps bien pluvieux du sud-ouest au nord-est et un fort coup de vent dans le sud-est.
RTL Inside.
Allez, comme tous les soirs à cette heure-ci, une immersion au cœur de l'actualité. Ce soir, immersion au cœur d'un tout petit pays, grand comme un tiers de la France, niché en Amérique du Sud et qui, il y a quelques années, a, comme qui dirait, gagné au jackpot.
Le Guyana, 700 000 habitants, trois fois moins que la ville de Paris, coincée entre le Venezuela et le Suriname. Hier, l'un des pays les plus pauvres du monde, mais qui a vu son destin basculer le 20 mai 2015, quand on a découvert un immense gisement de pétrole offshore.
Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir à tous.
Vous avez pu vous rendre cette semaine à Georgetown, c'est la capitale du Guyana. Racontez-nous déjà, c'est comment, tout le monde roule en voiture de luxe ?
Non, peut-être pas quand même, mais moi qu'on puisse dire oui, c'est que le pays a été complètement métamorphosé. Imaginez, en 10 ans, leur PIB a été multiplié par 3, leur taux de croissance. Quand nous, on peine à dépasser les 3%, il y a 2 ans, c'était 62%. 62%, c'est du jamais vu. Certains disent même que le Guyana, ce sera le Qatar de demain. Résultat, oui, quand on traverse le pays, on sent bien que quelque chose a changé. Germaine a bien voulu être mon guide le temps d'une soirée. Il est chauffeur de taxi, ici à Georgetown.
50.
Il y a quelques années, tout ce que vous voyez ici, c'était des champs de verdure.
Ici, c'est la route principale qui dessert la capitale, une route flambant neuve, et ça n'arrête pas de construire avec des chantiers tous les 100 mètres et même des quartiers entiers qui sortent de terre comme des champignons.
Quand on voit toutes ces maisons, elles étaient en bois avant et le plus haut qu'on allait, c'était le premier étage. Mais là, on commence à voir vraiment 5-6 étages, donc on ne peut pas faire ça en bois. C'est impossible.
Et il n'y a pas que les constructions qui ont changé, les commerces aussi. Par exemple, l'année dernière, Starbucks a ouvert sa première adresse ici.
Bon, Thomas, on imagine qu'autant de richesses, ça attire les curieux aussi.
Oui, bah vous imaginez bien. D'ailleurs, les habitants ici ont fini par s'habituer aux cortèges et aux sirènes qui sortent régulièrement de l'aéroport. Beaucoup d'entreprises veulent venir ici surfer sur la nouvelle hype du pays en espérant pouvoir aspirer une partie de l'argent du pétrole. C'est le cas notamment de Total qui aimerait bien venir exploiter une partie du gisement. Mais il n'y a pas que les chefs d'entreprise dans les cortèges.
Il y a beaucoup de politiques qui viennent ici. Mon métier maintenant, c'est de transporter des politiques.
Rien que cette semaine, un lundi, était invité autour de la table du président Bill Clinton, l'ancien président américain, rien que ça. Hello. Et le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. C'était la première fois qu'un ministre français se rendait à Georgetown, dans un pays qui compte à l'heure actuelle une trentaine de Français seulement, c'est pas beaucoup. Un saut de puce de quelques heures, mais à la clé des contrats de plusieurs dizaines de millions d'euros et une annonce, l'ouverture en 2025 d'une ambassade de France ici au Guyana, la première pour un pays européen.
Mais attendez, quand on a 30 Français sur place, ça sert à quoi une ambassade ?
Bonne question. Alors déjà, ça sert à avoir une représentation. Ici, un ambassadeur. Et puis surtout, ça sert à établir des relations, à mettre en contact ces fameux chefs d'entreprise qui pourraient vouloir s'installer ici. Bref, d'essayer de nous faciliter le business. Et puis, si ça nous permet, nous, la France, de venir croquer une petite part du gâteau, ça fera pas de mal. Je vous rappelle qu'on cherche des milliards. Stéphane Séjourné a même invité son homologue du Guyana à venir en visite à Paris.
On passe du pays le plus pauvre au monde, ou un des pays les plus pauvres au monde, au quatrième pays le plus riche dans les 10 à 15 prochaines années.
Donc, vaut mieux être plutôt copain avec.
Je dirais qu'il faut mieux avoir des collaborations avec eux. Un pays qui va devenir prospère, il faut mieux l'avoir avec nous, oui.
Voilà, au moins c'est clair. Emmanuel Macron, lui, n'a pas encore prévu de se rendre au Guyana. Mais à ce rythme-là, ça va peut-être pas tarder.
Ouais, ça ne saurait tarder. RTL Inside, donc dans ce petit pays d'Amérique du Sud, le Guyana, dont on va tant parler dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup, Thomas Després.
RTL Inside.
18h37.
J'ai perdu, Klaus.
L'emblème de la France, c'est le coq. Ben, le coq français ne chante jamais aussi bien que quand il a le pied dans la mer.
Il se sera sous quelle forme
ça sera un bon cocorico.
Et non, je vous revois, mais je vous avais perdu.
Allez, la visioconférence, c'est à vous, cher Alex Vizorek. On était au Guyana, on va rester en Amérique du Sud parce que vous vouliez commencer par la fin du voyage d'Emmanuel Macron au Brésil.
Et oui, il a été accueilli en grande pompe, hein. On l'a parlé ici depuis plusieurs jours par le président Lula. Et les deux ont notamment donné un dernier point presse ensemble auquel Lula a mis fin en déclarant ceci. Les gens doivent partir. Sarkozy et moi allons nous rendre à Rio de Janeiro. Oh, Macron et moi allons nous rendre à Rio de Janeiro ce soir. La perspicacité de ce loup-là. En 48 heures de visite, il a tout de suite cerné la personnalité de notre président. Un coup d'œil.
Bon, passons à une autre rencontre au sommet.
Et oui, dans le cadre des élections européennes, Jordan Bardella a accepté un débat, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le 9 avril sur Figaro TV avec Manuel Valls. Oh. Mais oui, Manuel Valls, en 10 ans, est passé de socialiste à community manager du RN. Alors, pour Bardella, évidemment, je comprends. C'est important, avant des matchs à enjeu, de faire un petit match amical contre un sparring partner pas hyper affûté, puisque Manuel Valls, il ne se présente pas aux Européens. Il s'en fout, il n'y a pas de programme, il est juste là pour se montrer à la télévision. Et en plus, vu les positions de Valls sur certains sujets, ça ressemblera parfois moins à un débat qu'à un brainstorming, surtout sur Figaro TV. Mais bon, le problème, c'est que quand les deux vont s'accorder pour dire qu'il y a trop d'étrangers en France, on va même être d'accord un peu avec eux, puisqu'il y a au moins un Italien et un Espagnol. Donc ce serait bien passé.
Faites gaffe, vous recommencez à faire
des blagues de gauche.
Repensez à votre salaire.
Il y a un mec de gauche et un mec de droite dans la blague, c'est bon.
Allez, aux États-Unis, ouais, Donald Trump a décidé, quelques jours avant Pâques, de vendre des bibles.
Il vend des bibles, Donald Trump. Le mec, il y a 4 ans, était président des États-Unis. Aujourd'hui, c'est un témoin de Jéhovah.
La Bible qu'il qualifie comme étant son livre préféré.
C'est son livre préféré. Alors, bon, après, c'est pas anormal que ce soit son livre préféré. C'est le livre qu'il a eu le plus en main. Enfin, en tout cas, il avait la main dessus. Et il disait, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, à l'ouverture de tous ses procès. Enfin, en tout cas, comme il vend la Bible pour payer ses frais de justice, parce qu'il a trompé sa femme avec une actrice porno. Même s'il l'a lu, je suis pas sûr qu'il ait tout bien compris dans le bouquin.
International oui. Encore. La Thaïlande vient de franchir une étape cruciale vers la légalisation du mariage pour tous. Les députés thaïlandais ont donné ce mercredi leur feu vert à une large majorité.
Oui, et je remarque qu'ils ont fait ça juste après la disparition de Frédéric Mitterrand. Oh.
Peut-être c'est pour éviter les quiproquos, parce que le mariage pour tous, oui, mais le mariage pour tous, ceux qui sont majeurs, bien évidemment.
Technologie, l'Union européenne appelle les plateformes en ligne comme X, Facebook et TikTok à identifier clairement les contenus générés par intelligence artificielle.
Ah oui, ça c'est important et je sais de quoi je parle ici. Non, c'est plutôt une bonne idée que les gens sachent ce qui vient d'une IA et ce qui est réel.
Bonjour. C'est Gérard Larcher. Oui. Je voudrais dire que c'est très important ça, parce que moi, ça fait plusieurs fois qu'Alex Vizorek me fait dire n'importe quoi à l'antenne.
Voilà, bon, je suis désolé. Pardon, monsieur Larcher, mais donc, bah, vous l'aimez pas beaucoup, ce Alex Vizorek?
Ah non, je l'adore. D'ailleurs, je vous conseille tous d'aller le voir en spectacle
gentil,
au Casino de Paris. Du 20 au 23 novembre.
Bon, merci. Bon, bah, alors, bon, je vais être honnête. Il s'agissait d'une intelligence artificielle.
Ah bon,
enfin, pour la voix, hein, le contenu, c'est réel. Mon spectacle est super. Et ce sera effectivement au Casino de Paris du 20 au 23 novembre. Oui.
Et santé oui, maintenant. Des cas de grippe aviaire inédits détectés chez des vaches laitières aux États-Unis.
Voilà, des cas de grippe aviaire détectés chez des vaches laitières. Il y a donc deux options. Soit vraiment le virus a muté fortement pour se transmettre d'une espèce à l'autre, soit il y a un poulet qui s'est vu un peu trop beau et qui a essayé d'avoir une relation pas très catholique avec une vache.
Dernière info, des chercheurs français ont constaté un risque accru de tumeurs au cerveau dû à des molécules présentes dans certains contraceptifs.
Oui, ça m'a attristé parce que du coup, il faut choisir entre le risque de tumeur et le risque d'avoir un enfant. Et ça, c'est vrai que c'est pas simple.
C'est bien,
vous, hein. Et oui, non, mais c'est vrai que soit il faut choisir d'avoir une tumeur au cerveau, soit avoir mal de tête pendant une quinzaine d'années. Et c'est même plus grave puisque l'un augmente les chances de mourir et l'autre vous en donne envie beaucoup plus souvent. Donc courage aux futurs parents, mais encore plus peut-être à ceux qui n'ont pas envie de le devenir.
Merci beaucoup, Alex. RTL, bonsoir. Continue, Alex. Vous allez défier dans quelques minutes Vincent, dans un match des infos pour briller au dîner qui promet. Je vous rappelle aussi ce rendez-vous exceptionnel qui arrive. Texas en live dans ce studio. Après 19h, le groupe mythique revient et Charlene Spiteri, la chanteuse, sera notre grande invitée.
Mais là, dans l'immédiat, on reprend le fil de l'actu. Reconstitution dans l'affaire Émile. Les gendarmes peuvent-ils avancer enfin? Comment travaillent-ils? L'ex-procureur général Jacques Dallest nous explique.
Julien Cellier, Vincent Derosier et Cyprien Simi.
RTL, bonsoir.
Excusez-moi, bon vent mon GG. Toi, le flic chevronné, des contrôles et des... Vos papiers s'il vous plaît. Toi qui après 38 ans de bons et loyaux services tire enfin sa révérence. Et oui, à partir du 1er avril, c'est aussi la fin des cartes vertes. Comme notre GG, c'est un bout du vieux monde qui part à la retraite. Léo Care, l'assurance auto, 100% mobile, 0% paperasse. Retrouvez votre carte verte directement sur l'application Léo Care.
RTL Tabac. RTL. Bonsoir.
Julien Cellier, Vincent Derosier et Cyprien Simi.
18h45 minutes. Voici maintenant nos invités pour tout comprendre.
L'Auvergnat une nouvelle fois sous les feux des projecteurs. Depuis ce matin, mise en situation. En gros, c'est une reconstitution de l'après-midi où Émile a disparu. On va en parler avec l'ancien procureur général, spécialiste des affaires au long cours et des cold cases, Jacques Dallest, qui va nous rejoindre.
Mais juste avant, direction justement ce hameau des Alpes de Haute-Provence, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Hugo Hamelin. Bonsoir Hugo.
Bonsoir à tous.
D'abord, déjà pour vous, difficile de suivre cette mise en situation pour les journalistes, hein?
Oui, c'est peu de le dire, hein, puisque nous sommes parqués à 2 km du hameau, en contrebas, derrière une barrière gardée par la gendarmerie. D'ailleurs, deux téméraires ont tenté de passer par des sentiers de randonnée pour tenter de la contourner. Ils ont pris une amende. Une trentaine de journalistes, donc, dont une équipe venue spécialement d'Allemagne, parce que cette affaire, elle intéresse ailleurs, en Europe. Regarde les voitures banalisées des enquêteurs de la section de recherche de Marseille. Monter et descendre du hameau, c'est pas fantastique comme spectacle. Le tout sous la grêle, la neige et la pluie. On imagine la difficulté des 17 personnes convoquées pour cette mise en situation de rejouer inlassablement les moments précédant la disparition d'Émile en doudoune à capuche, alors que cette disparition, on le sait, elle a eu lieu en plein mois de juillet. On attend finalement les retours de nos sources fiables, les gendarmes, le parquet, les avocats de la famille, pour se faire une idée plus précise de ce qui a évolué ou pas aujourd'hui.
Et ces investigations, Hugo, ça commence un peu à agacer les locaux aussi, hein.
Oui, plus que les investigations, finalement, c'est le ramdam médiatique qui sévit autour de cette affaire qui les énerve. Hein. La plupart ont peur de parler aux journalistes, car livrer un sentiment personnel à un micro ou une caméra, ça peut vite se transformer en rumeur médiatique. Et dans ce tout petit village sous tension depuis 8 mois, la moindre étincelle peut provoquer un embrasement. L'exception qui confirme la règle, c'est cet habitant surnommé Is No Good par les mauvaises langues du village, qui lui tourne autour des caméras, toujours prêt à donner son point de vue. Mais c'est bien le seul. Le Auvergnat est tout simplement lassé, usé et attend avec impatience la fin de cette nouvelle opération pour retrouver son calme au cœur des montagnes enneigées des Alpes de Haute-Provence.
Eh bien merci Hugo, sous la grêle. Donc comme promis, l'ancien procureur général Jacques Dallest nous rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Jacques Dallest, en 40 ans de carrière, vous en avez fait des dizaines de mises en situation ou de reconstitution. Ça sert à quoi exactement? Les enquêteurs, là, ils cherchent quoi?
C'est un transport sur les lieux avec la volonté apparemment de visualiser les lieux. C'est une espèce de remise à plat d'une affaire avec les éléments dont disposent les enquêteurs, qui sont évidemment assez limités en l'espèce, semble-t-il.
Mais est-ce que par exemple, dans les mises en situation, il y a des caméras qui filment donc la scène pour que les images soient ensuite revues et analysées, je ne sais pas, par des spécialistes du langage corporel, par exemple, qui peuvent dire « Ah bah tiens, là, quand il fait ça, peut-être que ça ne joue pas naturellement, il ment, ça n'existe pas, ça ?»
Non, non. Je ne pense pas qu'on en soit là. C'est simplement de voir s'il y a des contradictions, s'il y a des éléments peut-être qui n'ont jamais été évoqués jusque-là, qui pourraient être évoqués aujourd'hui, qui peuvent faire progresser peut-être l'enquête. On est dans une zone d'incertitude. Et il ne faut pas non plus attendre monts et merveilles de ce genre d'investigation. Ça peut évidemment aider l'instruction, mais il ne faut pas imaginer que en fin de journée, on connaîtra les raisons de la disparition du petit Émile. Ce serait magnifique, mais je pense que ce ne sera pas le cas.
Pourquoi des images par drone, notamment? Ça permet de vérifier les angles de vue de chacun des 17 témoins pour vérifier qu'à l'instant T, chacun disait vrai, par exemple? Ça peut servir à ça?
Oui, c'est aussi une façon d'avoir des photos aériennes qui permettent d'avoir des plans qu'on appréhende mal quand on est dans un bureau. Il faut encore une fois penser éventuellement à une juridiction de jugement où les juges qui jugeront au fond, peut-être des jurés de cour d'assises, ne seront jamais allés sur les lieux. Ouais. Donc il faut essayer de leur donner le maximum d'informations, presque en trois dimensions, si je puis dire. Et maintenant, il y a des éléments des technologies, des scanners, de la 3D. Voilà, c'est une confrontation, en fait, et de ces confrontations peuvent naître une nouvelle orientation. On peut mettre de côté une piste qui était peut-être envisagée, mais finalement qui ne semble pas la bonne. Même s'il faut être toujours très prudent, on sait que la solution peut être dans une voie qui avait été explorée, qui a peut-être été trop vite abandonnée.
Vous qui avez connu de très nombreuses situations de ce type, de remise en situation dans votre carrière, est-ce que parfois des témoins ont un souvenir qui revient parce qu'ils sont de nouveau sur les lieux, comme s'ils y étaient à l'instant T?
Oui, bien sûr, c'est tout l'intérêt d'être sur place. On est quand même sur un temps encore convenable, même si on est plusieurs mois après. Ouais. Les choses ne sont pas oubliées. Il faut penser aussi que peut-être certains témoins qui étaient présents, qui ont vu quelque chose, ne se sont jamais manifestés. C'est aussi ça qui peut être intéressant, de relancer une forme d'appel à témoins. Il faut jamais s'avouer battu, de se dire ça c'est terminé. Un témoignage peut-être partiel ou partial. C'est encore une fois de cette collecte, de cette juxtaposition d'informations qu'on peut voir si telle déclaration elle semble juste ou si elle peut être fantaisiste ou mensongère. Voilà, c'est toute cette analyse auxquelles doivent procéder les juges d'instruction, peut-être avec des experts, des techniciens et en tout cas les enquêteurs de la gendarmerie qui sont assez pointus sur ces sujets.
Mais là, ce soir, cette nuit, demain, ils vont se réunir, ils vont débriefer tout ce qui s'est passé, ils vont revoir les images. Comment ça va se passer pour les enquêteurs, par exemple?
Écoutez, je pense qu'ils rentreront, ce sont des juges d'instruction d'Aix-en-Provence. Hein. Ils rentreront chez eux, ils évalueront certainement ensemble avec le parquet, peut-être, avec les enquêteurs, le bilan, ils en feront le bilan, et peut-être des choses sortiront qu'on ignore pour l'instant dans les jours qui viennent. Donc il faut pas être trop pressé, c'est un travail de longue haleine, c'est toujours trop long, évidemment, pour la population, pour les victimes, pour la famille. Mais il faut arriver pas à pas, parce que peut-être c'est de cette manière qu'on connaîtra la vérité.
Merci beaucoup Jacques Dallès, vous l'ex-procureur général, pour vos explications. Merci aussi à Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux ce soir de RTL au Auvergne. RTL Bonsoir continue dans une seconde, le match des infos pour briller au dîner. Et puis après 19h, on va rajeunir en quelque sorte avec notre grande invitée, c'est Charline Spiteri, la chanteuse iconique du groupe de légende Texas. Texas va jouer en live pour vous dans ce studio. Nouvel album avec des tubes revisités, c'est magnifique. Et avec Charline Spiteri, on va aussi parler de son amour de la France, parce que figurez-vous qu'elle connaît très bien et la famille Gainsbourg et Thierry Henry. Si, si, à tout de suite.
RTL Bonsoir jusqu'à 20h. RTL Bonsoir. And round number
one. Allez, on monte sur le ring. C'est l'heure, le grand match des infos pour briller au dîner. Si c'était un combat de boxe, on miserait Vincent. Parce que c'est un match des infos pour briller. On va peut-être miser Alex.
Exactement, Vincent contre Alex. Ce soir, Vincent a choisi de briller avec l'industrie du jeu vidéo, puisqu'on a appris que le groupe Sega allait de nouveau. Ouais, mais là, c'est de nouveau supprimer des centaines de postes en Europe. Ça marche pas fort, Sega.
Et je vais donc vous raconter l'histoire du premier jeu vidéo qui n'est pas Pong et ses deux barres de chaque côté de l'écran. Pong sur Atari, jeu de tennis sorti en 1972. Mais le tout premier jeu, il est né 14 ans plus tôt. Son inventeur, c'est William Eugene Botham. Il est physicien. Et c'est une tronche, puisqu'il a participé à un petit projet dont vous avez peut-être entendu parler, la toute première bombe atomique en 1940.
Ah oui, Oppenheimer.
Okay. Ce monsieur travaille dans un laboratoire de physique nucléaire à New York, labo qui est parfois ouvert au public, un peu comme pour les journées du patrimoine. Et William, en 1950, il se rend bien compte que les visiteurs s'ennuient, pour pas dire qu'il s'emmerde, alors il a une idée de génie, transformer un vieil ordinateur qui sert à simuler des trajectoires balistiques en console de jeu. Trois semaines plus tard, bingo, Computer Tennis est né sur l'écran d'oscilloscope. Une ligne verticale, une horizontale, un point qui se balade, c'est la balle de tennis, l'appareil sera oublié car son créateur n'a pas déposé de brevet.
Oh là là là.
Mais en 1980, un procès oppose deux sociétés, dont Atari, qui se disputent la paternité du concept de jeu vidéo. Et c'est à ce moment-là que le grand public va découvrir que le tout premier jeu est né dans un labo parce que des physiciens trouvaient parfois le temps un peu trop long.
Et donc ça date des années 50. C'est
54, fou, exactement.
C'est comme quoi on peut créer la bombe atomique et oublier de déposer un brevet. Hein.
Effectivement. Finalement. Allez, place à Alex.
Allez, en cette veille de long week-end de Pâques, les routes seront chargées dès demain soir. C'est pourquoi Alex a choisi de briller avec Bison Futé, qu'on ne présente plus.
Mais oui, Bison Futé, on l'a pas en Belgique. Il n'existe pas, c'est que pour vous.
Ah, vous devez avoir beaucoup de bouchons alors.
Oh, hein. Bah, oui, non.
Non, c'est parce qu'il traverse toute la France.
Et comme on traverse la France, inquiété, on entendait Bison Futé pense que si, Bison Futé pense que ça. Mais qui c'est ce Bison Futé? Alors en fait, il est né à l'été 76. Et effectivement, c'est pas un bison l'animal, c'est un indien. Mais on est passé à côté de pas mal d'autres propositions, parce qu'il y a eu gros brainstorm hein, du côté de vous, les Français. Hein. Un dauphin. Mais c'est vrai que c'est con sur les routes. Hein. Pourtant, animal vif et intelligent. Une girafe surnommée Ginette. Et ça, c'était logique parce que la girafe, elle surplombe. Donc, elle voit si éventuellement il y a des embouteillages. Un oiseau, Timothée Voilouin. C'était le nom de l'oiseau. Avec des grosses jumelles, comme ça. Une tortue. Bon, là, c'est un peu plus, c'est un peu plus idiot. Un lapin, un rat des villes et un rat des champs. Et puis après, ce grand brainstorm, ils se sont dit, on va choisir, non pas un animal, mais un indien, un chef indien. Et on va l'appeler Bison Futé. Bison Futé, c'était un chef Sioux. Et il était très connu parce que c'était un des meilleurs pisteurs. Donc, il savait flairer où était le bon itinéraire, l'itinéraire bis qui allait l'emmener plus rapidement. Et donc, c'est ainsi qu'il est arrivé sur vos routes en 67 et qui vous aide, même si très souvent, une fois qu'on vous dit Bison Futé, pense que vous êtes déjà dans l'embouteillage.
Ouais, c'est souvent trop tard. Donc, ça brainstormait sévère la sécurité routière à l'époque. Bon, Bison Futé, ou alors l'inventeur de la bombe atomique qui a oublié de déposer un brevet.
Non, Bison Futé pour moi.
Oh. Ah, je vote Bison Futé. Oh là là.
Damien Laréal.
Bison Futé aussi. Ah, et Ginette la girafe.
Je l'ai extrêmement mauvaise, mais du coup, on est à l'antenne, je vais être bon joueur.
Alors là, soit je vous humilie complètement, soit je vous donne un point, ça ne changera rien. Je vote Bison Futé.
Oh là là.
Cher Vincent.
J'en suis navré. Jusqu'à 20h.
Et j'en suis navré. Nous, on reste jusqu'à 20h. Et pour cause, parce que dans quelques minutes après 19h, Texas, le groupe mythique aux 40 millions d'albums vendus, va venir jouer ici en live dans ce studio. Charline Spiteri, la chanteuse iconique, est notre grande invitée pour le retour de Texas avec un album absolument magnifique, piano voix, les grands tubes de Texas. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you.
RTL, bonsoir.
RTL.
Bonne fin de journée, RTL, bonsoir, 19h. Et c'est l'heure du 360, 360 secondes pour tout savoir. C'est avec vous, Aude Vernuccio, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. 185 habitants envoyés à l'hôpital dans la même ville pour des nausées, des vomissements. La ville de Bar-sur-Seine dans l'Aube est en alerte pollution de l'eau depuis le week-end dernier. Les 3000 habitants sont invités à ne pas consommer d'eau du robinet, sauf bouillie. La piste privilégiée à ce stade, ce serait une contamination bactériologique, Samuel Goldschmidt.
Et une contamination importante même, dit la préfecture de l'Aube, sur les trois points du réseau analysé, à savoir dans les secteurs du lycée, du collège et de l'hôpital. Depuis que l'alerte est connue, les choses se sont un peu apaisées, mais il faut s'adapter.
Oui, oui, on est embêté avec l'eau. On est obligé d'aller chercher des packs d'eau.
Est-ce que vous connaissez des gens qui ont été malades ?
Moi, personnellement, dans mon entourage, non. Mais je sais très bien qu'après, au lycée, au collège, ils ont été tous malades. Enfin, avec, hein, c'est vrai que c'est un peu c'est des casse-têtes, quoi, mais bon.
Et si cela dure, c'est parce qu'il faut un certain temps pour obtenir les résultats des analyses. Demain pour les analyses bactériologiques et mardi pour vérifier l'absence de parasites. En attendant, il faut faire donc bouillir l'eau du robinet au moins 3 minutes avant de la consommer. Et on peut chercher des bouteilles d'eau si besoin à un point de distribution qui devrait fonctionner tout le week-end.
Samuel Goldschmidt dans l'Aube pour RTL.
Elle a duré 10 heures. La reconstitution des faits est terminée au Vernet.
Une mise en situation 8 mois après la disparition d'Émile pour tenter de faire la lumière sur ce qui a pu se passer le jour où le garçon de 2 ans et demi a échappé à la surveillance de ses grands-parents. Bonsoir Maxime Lévy.
Bonsoir.
Envoyé spécial de RTL dans les Alpes de Haute-Provence, les forces de l'ordre, les enquêteurs commencent à peine à quitter le hameau. Comment s'est déroulée la journée ?
Eh bien, depuis 9h ce matin, 17 personnes sont convoquées, des proches d'Émile présents au moment de sa disparition, mais aussi des témoins, des voisins. Pas à pas, toute la journée, les enquêteurs leur ont demandé de rejouer les faits et gestes que tous ces protagonistes ont décrits dans leurs multiples auditions. Le moment où ils s'aperçoivent de sa disparition, le moment où des témoins le voient pour la dernière fois, ou encore ces moments de panique où le garçon reste introuvable. Les enquêteurs ont tout filmé, à la fois au niveau du sol, mais aussi à l'aide de drones, ce qui permet de débloquer de nouvelles perspective avec une vue aérienne. Seules les personnes convoquées, les quelques habitants du hameau et les enquêteurs pouvaient accéder à ce flanc de montagne au Haut-Vernet. Une barrière et des gendarmes bloquaient l'accès 2 kilomètres plus bas pour empêcher journalistes et curieux de passer.
Maxime Lévy au Haut-Vernet pour RTL. Les réquisitions dans le procès du violeur de Tinder, 19 ans de réclusion criminelle requis à l'encontre de Salim Berada, le photographe accusé d'avoir violé et agressé sexuellement 17 femmes entre 2014 et 2016, en les contactant au préalable sur l'application de rencontre.
Un adolescent de 17 ans interpellé, placé en garde à vue dans les Hauts-de-Seine dans l'enquête sur les piratages de plateformes numériques dans les établissements scolaires.
Les menaces d'attentats se sont multipliées. 323 menaces dans 44 départements et 20 académies. Depuis le milieu de semaine dernière, Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation, était l'invitée de RTL Bonsoir il y a une heure. Elle annonce suspendre la messagerie de ses ENT, ses espaces numériques de travail.
Les personnes qui émettent de tels messages, évidemment, seront poursuivies et nous y veillerons et elles seront sanctionnées. On ne peut pas laisser proliférer ce type de messages, de menaces, de vidéos. Donc, si vous voulez, dès que cela s'est produit, nous avons bloqué les comptes et là, nous allons suspendre la messagerie dans les ENT parce qu'il faut, en tout cas à titre préventif, arrêter ces élèves.
Ça veut dire
nous
que
allons le faire.
Les élèves, là, dans les heures qui viennent, n'auront plus accès à la messagerie de leur ENT.
Absolument, pendant quelques temps, jusqu'aux vacances de printemps sans doute, pour que nous puissions, le cas échéant, réinitialiser les comptes de nos élèves et sécuriser davantage encore l'accès à la messagerie des ENT.
La ministre de l'Éducation qui se rendra demain dans un lycée de Bordeaux visé par ces menaces, Nicole Belloubet, assure à notre antenne que des courriels de menaces via Gmail ont aussi été envoyés nommément à des enseignants de cet établissement.
Après les pistes de Gabriel Attal dévoilées hier pour redresser les comptes publics, Bercy consulte les oppositions.
Certaines ont carrément boycotté le rendez-vous en désaccord avec toute réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs. Piste avancée hier soir par le Premier ministre pour réduire le déficit public qui s'est envolé à 5,5% en 2023. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National, s'est rendu à cette réunion sans grande conviction.
ça est très cordial, ça se passe bien, on est dans sous les ors de la République, enfin là le béton en l'occurrence de la République, mais voilà, on a de l'eau, on a un café, tout ça est très cordial, mais c'est la cinquième réunion de ce type depuis que je suis élu. Moi je m'y rendrai toujours au nom du Rassemblement National puisqu'on est au service des Français, mais rien n'avance. Moi les propositions que j'ai faites, je les ai réitérées, les alertes que j'ai faites, je les ai réitérées, donc voilà, il faut récupérer aussi l'argent des Français, et monsieur le maire n'a pas proposé de solution pour récupérer cet argent.
Un propos recueilli par Julien Fautras. On vous en parlait hier soir. Dans ce journal, la proposition de loi contre la discrimination capillaire a été votée aujourd'hui par les députés. Le texte prévoit des sanctions contre les employeurs tentés de contraindre leurs salariés à lisser leurs cheveux pour les coupes afro. Sanctions aussi contre les moqueries à l'encontre des roux ou des blondes, par exemple. 6 jours après l'attentat de Moscou revendiqué par le groupe État islamique, la Russie affirme que les assaillants islamistes étaient en lien avec des nationalistes ukrainiens et qu'ils ont même reçu de l'argent venu d'Ukraine. Washington qualifie ce soir les Russes de marchands de fumier qui diffusent leur propagande. Fin de citation.
Quand la sécurisation des JO devient une affaire internationale, plusieurs pays envoient des renforts en France.
Des effectifs militaires et des équipes cynophiles qui viendront prêter main forte aux Français cet été pour faire face à la menace attentat, le plan Vigipirate relevé au niveau maximal après cette attaque de Moscou. Émilie Beaujard, bonsoir.
Bonsoir.
Les Polonais répondront présents.
Oui, dans un tweet, le ministre polonais de la Défense annonce qu'il va envoyer des maîtres chiens et des chiens renifleurs pour la détection d'explosifs. La Pologne ne sera pas le seul pays à participer à la grande sécurisation des JO, puisque la France a lancé un appel début janvier pour trouver à peu près 2000 renforts. L'Allemagne a déjà répondu positivement il y a 2 semaines. Elle enverra des policiers pour sécuriser la maison de l'Allemagne et certaines voies publiques. Ce n'est pas inhabituel. Le ministère de l'Intérieur explique qu'une telle démarche a déjà eu lieu pendant la Coupe du Monde de rugby, où 160 membres des forces de sécurité européennes ont patrouillé en France. Et à titre d'exemple, nous avions envoyé des commandos marines pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012 et des équipes de lutte anti-drone pour la Coupe du Monde au Qatar.
Merci Émilie Mojard pour ces précisions.
Merci beaucoup Aude Vernuccio. Le temps pour demain s'il vous plaît Peggy.
Avec une perturbation,
tous les détails.
Bien pluvieuse, oui, du sud-ouest au nord-est, et ça va quasiment pas bouger, les pluies vont stagner toute la journée. On aura ce qu'on appelle un ciel de traîne sur le nord-ouest du pays, alternance entre nuages, éclaircies, quelques averses localement orageuses sur le nord de la Bretagne le matin par exemple, tout avec du vent, des rafales jusqu'à 70 km/h sur les bords de Manche. Et puis dans le sud-est, on aura le matin un temps bien nuageux, des averses sur les Cévennes et un fort coup de vent donc sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, sur les Alpes également, Massif central, les Pyrénées. Et d'ailleurs, notez que le Rhône et la Loire passent en vigilance orange vent à partir de minuit. Il y a peu d'évolution, je vous le disais, dans la journée. Juste un petit peu plus d'éclaircies dans l'après-midi entre la Méditerranée, les Alpes et la Franche-Comté. Puis attention au risque d'avalanche qui est important sur les Pyrénées. Les températures de 6 degrés le matin à Caen, à 15 à Montpellier, elles sont en hausse et partout, matin comme après-midi. De 11 à Limoges, à 25 à Perpignan l'après-midi, 12 degrés du côté de Cherbourg, 13 à Rennes et à La Rochelle, 14 au Mans, 15 à Paris et à Lille, 16 à Agen, 17 à Nice comme à Montauban, 18 à Toulouse, 19 à Mulhouse et Toulon et 21 à Montélimar.
Merci beaucoup Peggy. Peggy, vous la mélomane. Sachez que dans quelques minutes à peine, on va accueillir en live dans ce studio le groupe mythique Texas, et que Texas jouera pour nous puisque le groupe revient en revisitant tous ses tubes en version piano-voix. Donc ce sera l'occasion de réécouter quelques golds aussi. On va aussi cuisiner jusqu'à 20h avec les rouleaux de printemps d'Angèle Ferromac. Dans la guinguette, il y aura évidemment le grand quiz de l'émission avec une semaine de vacances en famille sur un bateau à gagner. Mais là, pour l'heure, on s'intéresse à l'enseigne préférée des Français.
RTL, bonsoir.
Les dessous de l'actu.
Et donc ce soir, on va faire les courses pour pas trop cher. Bonsoir Frédéric Perruche.
Bonsoir. Pour la deuxième année consécutive, Frédéric, la chaîne de hard discount néerlandaise Action est l'enseigne préférée des Français, selon une étude annuelle, et devant Decathlon et Leroy Merlin. Alors, comment on explique ce succès, Frédéric ?
Eh bien, pour le savoir, je me suis rendu au magasin de Lyon-Gerland, 1000 mètres carrés où l'on trouve de tout sauf des produits frais. Et le constat, c'est qu'il y a du monde, beaucoup de monde, dans ce début d'après-midi, dans cette moyenne surface qui accueille chaque jour 2000 à 3000 clients pour une raison très claire.
C'est les prix. Les prix sont très attractifs. J'ai pris pour jardin, pour les travaux, peinture,
Il y a des gants pour le jardin, 89 centimes.
Les gants, 89 centimes.
Ouais. Donc, pour trouver moins cher ailleurs, c'est compliqué. J'ai des petites tasses à café qui sont à 69 centimes pièce, alors que d'habitude, c'est 3-4 euros.
Le savon, là, pour les mains.
Le litre, 1,50.
Imbattable.
Imbattable. Action a sauvé nos portefeuilles avec la crise.
J'ai acheté des produits de beauté, des produits d'hygiène pour la maison, et puis des barres chocolatées pour les enfants.
30 euros, c'est pas cher?
Non. Si j'étais allée en grande surface, j'en aurais eu pour plus de 50 euros, ça j'en suis sûre. J'ai comparé.
Dans les rayons, vous trouvez 14 catégories d'articles du quotidien, produits d'entretien, d'hygiène, bricolage, beauté, des jouets, des friandises, de la déco, de la vaisselle, voire des valises. J'en oublie, au total 6000 références, prix moyen par article, autour de 2 euros. 1500 sont même proposées à moins d'un euro.
Mais Frédéric, c'est quoi le secret de ces prix imbattables ?
Eh bien, c'est la question que j'ai posée à Wouter de Backer, le directeur général France d'Action. Et le secret, l'un des secrets, c'est l'achat en gros, en très gros volume pour quasiment tous les magasins européens, plus de 2500.
Ça fait partie de notre ADN de présenter les prix les plus bas du marché. En gros, ça commence avec les grandes quantités qu'on peut y acheter, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que partout en Europe, on a presque 2600 magasins en ce moment. Ce qui nous permet d'acheter en grande quantité parce qu'on a les mêmes produits presque partout. Hein. Notre métier est vraiment traiter de très grosses quantités pour des prix les plus bas. Quoi.
Il y a également l'organisation très efficace et les camions du groupe qui contiennent 60% de marchandises en plus que les concurrents.
Et en France, donc, Frédéric, c'est une ascension fulgurante.
Ah oui, c'est le mot. Depuis la création du premier magasin dans le Pas-de-Calais en 2012, ils se sont multipliés comme des petits pains. Le 800e point de vente a été inauguré en janvier dernier. La France est désormais le premier marché européen du groupe néerlandais créé il y a tout juste 30 ans, avec désormais 30% des magasins de l'enseigne, qui compte aujourd'hui quelque 18 000 collaborateurs et qui reçoit chaque semaine quelque 5 millions de clients. Et l'augmentation est en hausse toutes les années.
Les secrets d'Action, la chaîne de Hard Disk Discount, enseigne préférée des Français. Merci beaucoup Frédéric Perruche du côté de Lyon ce soir dans les dessous de l'actu pour RTL. On marque une toute petite pause et puis la deuxième heure va vraiment débuter maintenant avec un live de Texas. Texas, le groupe mythique s'il vous plaît, aux 40 millions d'albums vendus. Texas revisite ses tubes dans un disque très simple finalement, très épuré, piano-voix, et c'est absolument magnifique. Charline Spiteri, la chanteuse, est notre grande invitée ce soir. Vous allez l'entendre, elle connaît très bien la France et notamment les footballeurs de l'équipe de France 98. Voilà, c'est tout de suite.
Oh là là, quel teasing, comme on dit.
Julien Cellier, Vincent Derosier et Cyprien Simi.
RTL, bonsoir. Julien Cellier.
RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
Allez RTL, bonsoir, la deuxième heure avec votre bande préférée. D'ailleurs, Steven Bellerino, spécialiste musique, nous rejoint. Je vais y arriver. Salut Steven.
Bonsoir à tous.
Tous ensemble, nous accueillons la voix du mythique groupe Texas. Notre grande invitée ce soir est la chanteuse écossaise Charline Spiteri. Bonsoir Charline.
Bonsoir. Merci d'être avec nous après 35 ans de carrière, plus de 40 millions d'albums vendus. Texas publie cette semaine un album de réinvention tout à fait singulier. Un peu la promesse, c'est Texas comme vous ne l'avez jamais entendu. L'album s'appelle The Muscle Shoals Sessions.
Alors, vous chanterez dans ce studio pour nous dans quelques minutes le titre Halo. Dans cet album, vous revisitez vos plus grands titres en version piano-voix, disque enregistré dans un légendaire studio l'Alabama aux États-Unis avec un musicien de légende. On va y revenir. Et vous vous êtes même amusé en reprenant un titre de Charles and Eddie. I'm telling you, baby. To you en version
such a good song. We're all good lovers. Yeah, it just makes you happy.
Charline Spiteri, en 2015 déjà, vous aviez réinventé les chansons de votre groupe dans une couleur soul. Vous aimez bien retravailler ces chansons du répertoire de Texas régulièrement. Vous le faites sur scène, évidemment. Ça fait quoi? Ça prolonge un petit peu leur vie de les remettre dans la lumière d'une autre manière?
It's funny because,
c'est marrant parce que, vous savez, une fois qu'on a joué tous les festivals l'année dernière, on a fait une tournée dans toute la France et je pensais qu'il y avait, j'avais l'impression qu'il y avait une nouvelle génération de public qui venait de nous découvrir et nos chansons pour la première fois, comme par exemple un des DJ les plus grands du monde, Fred Again, il passe à nos titres à la fin de ses sets. Donc il y a cette espèce de revival Texas, les gens entendent les chansons des fois pour la première fois, et moi je me dis bah Dieu merci, moi je suis super contente.
Alors vous avez enregistré dans les studios Fame Recordings à Muscle Shoals, une petite ville de l'Alabama aux États-Unis. Ce sont vraiment des studios de légende, on peut l'expliquer à nos auditeurs, ce sont des studios dans lesquels des classiques de la soul ont été enregistrés, des morceaux qui font un peu partie de la bande originale de nos vies depuis maintenant des décennies, Aretha Franklin, Wilson Pickett ou encore Percy Sledge. En 1966, quand ce titre est enregistré, dans ce studio, là-bas dans l'Alabama, il y a déjà autour des instruments ce pianiste, Spooner Oldham, avec lequel vous avez travaillé. Il a 80 ans, ce musicien qui vous accompagne sur ce disque. Est-ce que, avec ce musicien de légende, dans ces studios de légende, c'était une session d'enregistrement qui était particulièrement chargée en émotion?
Vous savez, c'était sûrement, il y a quelque chose qui reste dans ce studio, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, un sentiment, une émotion, et c'est vrai que ça inspire vraiment, et ça c'est fantastique en tant que musicien. On entre dans la pièce, on voit Spooner Oldham, on connaît son histoire. C'est l'homme le plus beau, le plus terre-à-terre qu'on a jamais rencontré. Et il dit pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais toi, tu veux savoir, tu veux toutes les vieilles histoires. C'est ce qui s'est passé avec Aretha Franklin, tout ça. Alors tu dis, dis-moi. Il raconte ces histoires fantastiques. Ensuite, on a le plaisir et l'honneur de s'asseoir à côté de lui. Et quelque chose s'est passé là-bas quand on travaillait sur le disque. On avait toutes les chansons de Texas. Et on est arrivé à Inner Smile. Et cette chanson, vous remarquerez qu'elle n'est pas sur le disque, et Spooner a dit non.
And we were like,
et on s'est dit quoi?
Why?
Pourquoi? Et il a dit,
this is not for me, this song.
Cette chanson, elle n'est pas pour moi. Et on s'est dit, bon, d'accord. Ça fait rien pour moi. Moi, je ne joue pas ce genre de chanson. Donc, nous, en tant que musiciens et écrivains, on se sentait vraiment très fiers parce qu'il ne voulait pas la faire. Et on s'est dit, que ça veut dire qu'il voulait vraiment faire toutes les autres chansons avec nous.
Charline Spiteri, on le sait, la soul a toujours irrigué la musique de Texas, et on imagine tous ces souvenirs qui sont remontés quand vous avez enregistré cet album là-bas. Votre papa qui vous ramenait également des albums parce qu'il était marin dans la marine marchande, c'est grâce à ce disque et votre papa la musique qu'elle est arrivée en vous.
Et la musique de ma maman était très axée sur la soul, le blues, le gospel, Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald, Al Green, Marvin Gaye, toute cette musique, les disques Motown, ça c'était la musique du côté de ma mère avec laquelle j'ai grandi. Donc c'est plus la musique de ma mère qui m'a influencée de cette façon. Mon père, il préférait la musique américaine, il aimait des choses comme les Byrds, Gene Clark et après les Rolling Stones et tout ça, Bob Dylan aussi.
Et d'ailleurs, c'est un album avec des éléments soul qui a peut-être sauvé Texas en 97, l'album White on Blonde, sur lequel il y a le tube Say What You Want, tube que vous revisitez, là, ici aussi, en version piano-voix. Est-ce que c'est ce tube qui a relancé Texas? Parce qu'à l'époque, vous aviez un poil moins de succès. Il paraît que votre maison de disques ne savait même pas que vous étiez britannique. C'était l'album, le tube de la dernière chance?
Alors, littéralement, ça nous a mis dans un endroit complètement différent. En France, on n'était pas en mauvaise posture. On a toujours eu beaucoup de succès en France. Mais ce qui s'était passé en dehors de l'Europe, notamment au Royaume-Uni, c'était que toute cette scène de Manchester avait explosé. On est devenu quelque peu invisible. Mais pour nous, on était un peu... on se disait, bon, on va juste continuer, sortir des disques. Et donc, on avait encore un contrat. On était obligé, en fait, de sortir un disque de plus. Et on avait fait une reprise de la chanson d'Al Green, Tired of Being Alone, pour une chaîne de télé britannique, qui est devenue un tube. Je l'avais chanté a cappella lors de cette émission. Et les gens, ils se disaient, waouh, je savais pas du tout que tu chantais comme ça. Et on a décidé de faire un disque soul. Et ça faisait un moment qu'on s'y dirigeait progressivement, mais littéralement, ça a été l'élément déclencheur. Et c'est pour ça qu'on a sorti White on Blonde. Et quand on a donné ce disque à notre maison de disques anglaise, il y a beaucoup de gens au sein de la maison de disques qu'on dit, mais ce groupe était chez qui en fait? Et non, en fait, ça faisait des années qu'on était chez eux. Bonjour, c'est nous. On va se représenter.
Texas, c'est plus de 3 décennies de musique. Évidemment, vous continuez de remplir les plus grandes salles de France. Charline, vous êtes probablement l'artiste que je connais qui a le plus de détachement par rapport à sa carrière au star system. Comment vous expliquez que vous êtes aussi cool, aussi chill, diraient les ados?
Because it's not important.
Parce que c'est pas si important. Vous savez vraiment pas. Je suis pas devenue musicienne parce que je voulais être une célébrité. Et je crois que j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai eu l'occasion de rencontrer tellement de gens, d'autres musiciens ou des acteurs, des personnes que je respecte, des personnes que j'adore. J'ai rencontré des gens vraiment incroyables. Je suis allée à des fêtes incroyables. J'ai visité plein d'endroits très beaux. Mais c'est ce qui est important pour moi, c'est que j'adorerais, une fois que je serai plus là, j'aimerais que ma fille puisse regarder mon catalogue et dire, bon, c'est ma mère qui a fait ça.
Charline Spiteri, vous, la chanteuse de Texas, vous restez avec nous, vous chanterez pour nous Halo en version piano-voix avec le claviériste du groupe Eddie Campbell dans quelques minutes. Vous êtes notre grande invitée ce soir. Et on vous retrouve juste après ça.
RTL, bonsoir. Julien Cellier.
RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
Allez, RTL, bonsoir. La deuxième heure continue. Notre grande invitée va chanter pour vous dans quelques minutes. C'est Charline Spiteri, la voix et quelle voix du légendaire groupe Texas.
Qui revient avec un nouveau disque de Muscle Shoals Session, album piano-voix, les plus grands tubes du groupe réinventé.
On l'a dit, vous revisitez vos tubes après 35 ans de carrière, plus de 40 millions d'albums vendus. Est-ce que vous êtes surpris par votre longévité? Est-ce que vous êtes surpris quand vous voyez des gamins de 20 ans, par exemple, dans vos concerts aujourd'hui?
Yeah, because in my brain,
oui,
I'm still 20 years
dans
old.
Ma tête, j'ai encore 20 ans. Je sais que je ne les fais plus, mais
I feel 20 years old.
J'ai encore l'impression d'avoir 20 ans, sauf quand j'essaye de bouger, et après je me dis, oh mon Dieu.
Yeah, I feel, you know, it's like to stand on a stage.
Vous savez, aller monter sur scène et jouer sa musique quand on l'a écrit nous-mêmes, quand on a fait le disque nous-mêmes, c'est un moment vraiment très intime quand tu partages cette chanson avec beaucoup de monde et que t'es sur scène et que tu vois des gens en train de chanter ta chanson. Les gens me disent comment ça fait et moi je réponds, est-ce que t'as déjà été en voiture et tu mets ta tête par la fenêtre, la voiture fait 100 km/h et il y a l'air qui vient en pleine tête et c'est exactement cette sensation et ça nous monte, ça nous met au 7e ciel en même temps.
Charline, quand on réécoute vos titres en version piano-voix ou en version originale d'ailleurs, je pense notamment au tout premier tube, I Don't Want a Lover. Quand on réécoute ça, en fait, ça ne sonne pas rétro, ça n'a pas pris un coup de vieux. C'est une fierté pour vous, ça? Comment vous l'expliquez?
Explain it.
Yeah, I'm really proud of that.
Oui, j'en suis très fière. Vous savez, je crois que qu'on a écrit, bon, je veux pas trop en faire, mais quand on écrit une bonne chanson qui tient la route et qui est honnête, je crois qu'elle dure. Il y a pas vraiment de trucs ou d'astuces. Moi, j'ai l'impression que ça a duré. Et je croise les doigts.
Charline Spiteri, Texas et la France, c'est une longue histoire d'amour. Le nom du groupe, hommage au film Paris-Texas. Votre grand-mère paternelle, Nona, était française. Vous adorez le cassoulet. La France est le deuxième pays où vous avez le plus de succès. Vous avez même vécu près du Louvre à Paris pendant quelques mois. J'ai envie de savoir à quand une chanson en français maintenant.
Je
l'ai déjà fait. J'ai chanté en français à la télévision pour l'anniversaire de Taratata. Il m'a fallu seulement 35 ans, mais je me suis bien amusée. Et c'est marrant parce que moi, j'ai dit, je crois que je devrais chanter en français. Et tout le monde a dit, bon, d'accord. Alors j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, mais j'espère que j'ai offensé personne. Parce que...
Quelle chanson vous avez chanté en français? Et surtout, quelle chanson vous aimeriez chanter? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique française?
Alors c'est marrant parce que on a toujours été très ouverts lorsqu'il s'agit de nos influences françaises. Gainsbourg, je crois que Serge a été ma plus grande influence. Alors oui,
vous avez l'histoire de Bonnie and Clyde.
Et je peux littéralement, je peux imiter certaines de ces chansons.
Et vous aviez samplé Gainsbourg dans une chanson de Texas, d'ailleurs.
We did sample Gainsbourg many times, yeah. You've heard
de nombreuses fois, je crois qu'on l'a entendu sur des disques de Texas. J'ai chanté avec Jane Birkin aussi.
Lou has been
et Lou Doyon.
Et Lou est venu à nos spectacles. On a fait beaucoup de choses et une des premières sessions qu'on a faites en 1989, on a fait une session photo devant la maison de Serge Gainsbourg. On nous voit avec nos blousons en cuir à cette époque-là. Il y a toujours été un grand lien.
Vos liens avec la France vont plus loin. Il y a le parrain de votre fille qui est français également, Thierry Henry.
Yes.
Comment vous êtes rencontré avec Thierry Henry?
I love Heidi August. So they're all like,
j'adore. Chaque fois que je suis en France, les gens sont fous quand je parle de lui.
He's a legend in the world.
C'est vrai que c'est une légende. Et j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est un de mes meilleurs amis. Et on s'est rencontrés. J'adorais Arsenal. J'étais fan. Je vis dans le nord de Londres. Et quand Thierry est venu à Londres pour la première fois, je l'ai rencontré par l'intermédiaire de Patrick Vieira et sa femme. Et en fait, je suis pote avec tous les footballeurs français, je les connais tous, mais Thierry habitait à une rue de chez moi et il venait juste de rejoindre Arsenal et il connaissait pas Londres, enfin pas très bien. Et moi, je parle un peu français et connaissais mon groupe. Alors j'ai dit, bon, si tu veux, je peux te présenter, je peux te montrer un peu des choses dans la ville. Et on est devenus amis à partir de cette époque-là. On a grandi ensemble, on est devenus parents. Et quand j'ai eu ma fille, et je crois qu'il a marqué un but contre Manchester City. Donc il marque le but et il prend son maillot et le met au-dessus de sa tête. Et c'est marqué pour le nouveau-né. Et ma fille s'appelle Mystic Kids et je crois que la fédération de football lui a essayé de lui mettre une amende à cause de ça. Je crois que c'était 30 000 livres. Donc je me suis dit, oh mon Dieu, je me suis dit, est-ce que c'est à moi de rembourser l'argent? Je sais pas. Et je me suis dit, oh mon Dieu, je viens d'avoir un enfant, mon enfant a un jour et tout d'un coup, on me colle une amende de 30 000 livres. Donc Arsène Wenger est allé à la Fédération britannique de foot et a dit, mais non, mais c'était pour fêter la venue d'un nouveau-né, parce qu'à cette époque, les joueurs pouvaient rien afficher sur le terrain. Donc, à cause de ça, c'est devenu, ou grâce à ça, c'est devenu le parrain de ma fille, de Misty. Et je dois dire que c'est le meilleur parrain de tous. Il a fait la queue à New York, il a emmené sa fille et la mienne et ils ont fait la queue, lui et les enfants, devant une boutique de maquillage pendant une heure. Donc il a fait la queue pendant une heure avec les filles et personnellement, je n'aurais jamais fait ça. Mais vous voyez, lui, il est vraiment bien.
Un super parrain. Et alors vos liens avec les footballeurs français, ça n'arrête pas là. Il paraît qu'après votre Bercy en l'an 2000... Vous avez fait la fête avec Barthez et Djorkaeff. Et ensuite, eux, ils sont allés rejoindre le rassemblement de l'équipe de France. Ouais, vous passez votre temps avec des footballeurs français.
Oh my God. Yeah, I spend a lot of time with French.
Je passe beaucoup de temps avec les footeurs français, c'est vrai. Et mon groupe est super heureux. Ils adorent ça. Donc, toute l'équipe, tous les types qui travaillent avec moi, quand il y a des footballeurs qui arrivent, moi, je dis rien. Ils arrivent et ils se disent, oh mon Dieu. Quand parfois, dans une pièce, il y a Henri, Vieira, Pérez, Viltord, ils sont tous là.
Charline Spiteri, vous avez découvert il n'y a pas si longtemps, une douzaine d'années, que vous êtes synesthète. Vous voyez la musique sous forme de couleurs notamment. Comment ça se manifeste concrètement et vous avez vu quelles couleurs pour cet album piano voix?
I'm seeing blue.
Plus sérieusement, je ne savais pas du tout. C'est une sensation et c'est juste quand je perçois du son, c'est comme ça. Et c'est marrant parce que quand on travaillait sur un disque et l'ingénieur était là, je disais, tu ne peux pas en faire quelque chose un peu plus orange ou rouge avec des teintes un peu marron, et il me regardait vraiment d'un air bizarre. Et moi, je me disais que c'était un truc de créateur, un truc d'artiste, mais en fait, non. Et c'est seulement quand j'ai fait un show musical au Royaume-Uni et il y avait quelqu'un là-bas qui souffrait de synesthésie et qui a commencé à m'en parler, et je me suis dit, ah, c'est comme ça que moi aussi je vois la musique. Et le docteur qui était là sur le plateau m'a testé, m'a évalué et a dit, oui, c'est comme ça que toi aussi tu vois le monde, donc voilà.
Merci Charline Stipéry, vous la chanteuse de Texas. Vous restez avec nous, vous êtes notre grande invitée ce soir et vous allez chanter pour nos auditeurs Halo en version piano-voix avec le claviériste du groupe Eddie Campbell. Dans quelques minutes, on va vous laisser vous installer. Pendant ce temps-là, on passe en cuisine, c'est la guinguette d'Angèle Ferremax. Salut Angèle.
Bonsoir tout le monde.
On mange quoi ce soir? Quel est le menu?
Une petite tarte de printemps, ça y est, on va manger des rouleaux de printemps.
Ah, magnifique. J'adore les rouleaux de printemps.
Oui, tout le monde.
RTL, bonsoir. Julien Cellier.
RTL bonsoir jusqu'à 20h.
RTL bonsoir, la deuxième heure. On s'occupe toujours de vous dans quelques instants. Le cadeau tant attendu. Texas va jouer en live pour vous. Chers auditeurs, le groupe Charline Spiteri et son clavieriste sont en train de s'installer. Et nous, on passe en cuisine en attendant.
RTL.
Des cornichons, de la moutarde.
RTL vous régale, c'est parti pour la guinguette d'Angèle avec la chef Angèle Ferremax de la guinguette d'Angèle. C'est rue Coquillère, courez-y les franciliens, les parisiens, c'est dans le premier arrondissement et on y mange très bien. Est-ce qu'on peut y manger par exemple des rouleaux de printemps?
Bien sûr.
Bah oui, le printemps arrive, rouleaux de printemps, recette oui, asiatique, c'est compliqué. On y est, oui, on y est.
Enfin, on le vrai printemps. Météo, mais on
vous voyez
est,
ce ouais. que je veux dire, le printemps où on peut sortir avec autre chose qu'une parka.
Ou un joli pull jacquard.
Comme vous, Angèle, comme vous. Exactement. Magnifique, magnifique.
Alors, les rouleaux de printemps, c'est très facile à faire. Juste, on a besoin de trouver des feuilles de riz. Aujourd'hui, on en trouve dans tous les supermarchés. C'est assez facile au rayon asiatique. Vous savez, c'est ces feuilles un peu solides.
Un peu translucides, là.
Qui sont souvent dans des sachets noirs, un peu translucides, et qui sont vraiment... Enfin, on a un rouleau de printemps avec tout ce qu'on a dans le frigo. Là, je vous donne une recette, mais vous pouvez le faire avec de la ratatouille, avec les restes de la veille. L'idée, c'est comme un sandwich, c'est comme une salade, c'est de mettre ce qu'on veut à l'intérieur.
Est-ce qu'on peut enrouler le kebab pas fini d'Alex?
Parce que c'est absolument pas.
Le spring kebab roll.
Alors,
comment on fait ça?
Pour les rouleaux de printemps, il y a une petite chose qui est importante, c'est d'avoir tous nos ingrédients prêts avant de commencer.
D'accord.
Donc, moi, là, par exemple, je vous propose, mais vraiment faites comme vous voulez, de mettre des vermicelles de riz. Donc, 200 ouais. grammes à peu près de vermicelles de riz, cuites dans de l'eau bouillante. On aura stoppé la cuisson à l'eau froide et on les réserve. Comme autre ingrédient, on peut avoir des feuilles de salade, comme on veut, roquettes, épinards.
Soja. Un peu de soja.
Des pousses de soja. Alex Vizorek, ah, vous ne seriez pas en train d'être.
Vous avez été
de devenir un
fringant. Il est en conversion.
En transition. Ouais.
On peut aussi mettre des herbes fraîches. Donc, ça apporte vraiment.
Coriandre,
menthe, basilic.
Menthe, oui.
Délicieux. Moi, j'aime bien mettre, je sais que je vais diviser là, mais du tofu cuit et tranché. Oui, c'est très bon, je vous assure, du tofu fumé dans les rouleaux de printemps. On peut mettre du concombre en bâtonnet, on peut mettre de la carotte râpée, par exemple, ou même de la carotte en bâtonnet. Vous mettez un peu ce que vous voulez, moi c'est ce que je vous propose. Donc on commence par hydrater les galettes de riz. Donc dans un saladier avec de l'eau chaude, on va tremper la galette de riz. N'attendez pas qu'elle soit toute molle. Vous la trempez, elle doit sortir encore un peu croquante, okay. C'est normal. Là, vous la déposez au milieu.
À plat.
Petit conseil, si vous avez un plan de travail en bois, ça risque d'absorber et de coller la galette de riz.
Okay.
Donc, je vous conseille de mettre un sopalin ou un torchon humidifié sur votre plan de travail avant de faire vos rouleaux de printemps. Donc, ensuite, vous allez simplement assembler vos rouleaux de printemps. Donc, vous placez votre galette trempée au milieu, sur le plan de travail bien propre, sur votre torchon. Et au centre, on va disposer une petite quantité. Il faut bien faire attention de laisser les rebords vide. On va mettre une petite quantité de vermicelle, de tofu, de feuilles de salade, d'herbes fraîches, de bâtonnets de concombre, de carottes et de...
Et comment on le roule ?
Alors ça, c'est le truc. Oui, oui. Pour rouler, on va replier les côtés d'abord de la galette. Côté gauche, côté droit. Ensuite, on prend le bas et là, on recouvre et on tire un petit peu. On le serre. On a envie que les ingrédients soient bien concentrés.
Quoi.
Voilà, c'est ça. Et ensuite, on finit de rouler. Tout simplement. Ah ouais. Et si jamais, ne paniquez pas si votre rouleau de printemps se casse, vous le doublez. Vous rajoutez
une feuille, pas bête.
Ça marche très très bien.
Ouais.
Et ensuite, vous servez vos rouleaux de printemps avec une sauce saté, une sauce voisine. Vous pouvez mettre juste de la sauce soja.
Moi, je mets de la sauce gnocchman.
De la sauce gnocchman, c'est
ça. Ça vous est pas de pas que je connaisse la sauce
gnocchman. Je sens que le samouraï, ça va pas être adapté là.
C'est moins adapté, effectivement.
Et voilà. Et n'hésitez simple, en pas, fait. Encore une fois, à adapter les ingrédients avec ce que vous avez.
Et
de
si
l'avocat,
on les frit,
des poivrons.
Ça fait des. Ça marche
comme
pas
des nems.
Ah ouais, ça fait comme des nems.
Mais dans ces cas-là, on fera une garniture un peu moins fraîche parce que sinon, ça va cuire.
D'accord.
Mais c'est possible. Mais c'est beaucoup moins sain.
C'est un peu moins light, effectivement. Merci beaucoup. Les rouleaux de printemps version Angèle Ferromagne. Merci beaucoup, Angèle.
Merci à vous.
Allez, chose promise, chose due maintenant. Texas, comme vous ne l'avez jamais entendu, c'est maintenant Charline Spiteri, la voix du groupe de légende, est toujours avec nous. C'est notre grande invitée pour la sortie de The Muscle Shoals Sessions, les plus grands titres du groupe, revisités dans un studio de l'Alabama aux États-Unis en version piano-voix. Voici donc ce live, à présent, Halo, en version épurée avec Eddie Campbell, le claviériste de Texas. Charline, Eddie, c'est quand vous voulez. Merci beaucoup. C'était magnifique. C'était un vrai moment de grâce dans ce studio de RTL. Bonsoir. Texas, comme vous ne l'avez jamais entendu. Charline Spiteri au chant. Eddie Campbell au piano. Merci pour ce live. Merci d'être venu fêter avec nous dans ce studio la sortie de The Muscle Shoals Sessions, vos plus grands titres visités en version piano-voix. On l'a compris. Merci d'avoir été nos grands invités ce soir. À très bientôt, Charline. À très bientôt, Eddie. Et on remercie Claire Simon pour la traduction. Merci beaucoup.
Julien Cellier, Vincent Derosier et Cyprien Signy.
RTL, bonsoir.
Et l'émission n'est pas terminée, loin de là. La suite, c'est le grand quiz avec un très joli cadeau à gagner pour vous les auditeurs. On vous envoie en vacances, une semaine de vacances, en famille, 4 personnes sur un bateau. Enfin, il faut gagner le jeu d'abord.
Le boat. Et en plus, c'est vous qui conduisez le bateau. Vous êtes le capitaine. Ah, c'est un bateau sans permis, c'est très facile, paraît-il. Et c'est sur un canal, paraît-il.
À tout de suite.
J'ai pas essayé. Vaut mieux pas.
RTL, bonsoir.
RTL.
Bonsoir.
Julien Cellier, Vincent Derosier et Cyprien Signy.
Le grand quiz.
Allez, bonne fin de journée les amis. Vous en avez l'habitude pour terminer l'émission à la fin de RTL. Bonsoir, il y a un très joli cadeau à gagner. Pour vous, chers auditeurs, place à notre grand quiz. Quel est le présent que nous allons offrir ce soir, Cyprien ?
On va vous faire rêver. Une semaine. En vacances, en famille à 4 personnes. Wouh ! Sur le bateau, le boat, c'est un bateau de location pour naviguer en France sur une rivière ou un canal de votre choix. Vous conduirez vous-même votre bateau sans permis, c'est énorme. Les bateaux se conduisent très très facilement, ils sont très confortables et tout équipés.
Vous prenez combien pour les...
Absolument rien,
pour les spots.
J'essaye même pas. C'est surtout une très belle manière de découvrir nos régions, parce que nos régions ont du talent, vous le savez. En naviguant en pleine nature, par exemple sur la Charente, sur la Saône ou sur la Vilaine en Bretagne.
Ah,
chez vous.
La Vilaine, absolument oui. Magnifique.
Alors vous avez 18 bases de départ, Le Boat, vous allez le voir sur www.leboat.fr. Et alors Le Boat, ça s'écrit Le... puis boat, B-O-A-T, le boîte.
Voilà, magnifique. Maintenant que vous avez été payé
pour ce cours d'anglais,
grassement pour cette publicité, Cyprien, est-ce qu'on peut connaître les règles du jeu ?
Absolument, 6 questions, 4 bonnes réponses et c'est dans la poche. Tout a été dit depuis 18h. Et comme on est hyper sympa, d'abord c'est moi qui fais le quiz, donc les questions sont faciles. Et vous pouvez quand même demander 3 jokers à Julien ou Vincent qui sont
et
avec moi.
Et qui joue avec nous ce soir ?
Alors c'est Hubert. Bonsoir Hubert.
Bonsoir.
Bonsoir Hubert.
Vous nous appelez d'où, Hubert ?
De la région lyonnaise.
Ah, dans le Rhône.
Où précisément ? À Lyon ? À Lyon même ?
Non, en Val-de-Saône.
D'accord.
Ah bah vous devez avoir quelques balades avec le boat sur la Saône ou sur le Rhône.
Formidable. Ouais, il y a des belles balades là-bas.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Hubert ?
C'est un peu compliqué. Je suis en procédure contre mon ancien employeur.
Ah, d'accord.
On ne salue pas alors.
On ne dit rien. On ne dit rien. On ne voudrait pas que ça joue contre vous.
Alors vous n'êtes pas chez Julien Courbet. On va pas pouvoir vous aider.
Non.
En revanche, on peut vous offrir des vacances en famille si ça vous tente.
Oui.
Eh ben alors très bien. On va jouer ensemble, cher Hubert. Vous avez déjà navigué ou pas du tout ?
Oui, des petits bateaux, j'ai le permis, mais...
Voilà.
Ça va être la balade.
À l'aise. Sur les bateaux, le boat, visiblement, il n'y a même pas besoin de permis.
Il y a très longtemps.
Ouais, mais vous allez vous balader, Hubert. Allez, on va jouer ensemble, on va essayer de vous envoyer en vacances. C'est parti, première question.
Alors, à 18h15, on recevait la ministre Nicole Belloubet. Elle est ministre de quoi, Nicole Belloubet ? Ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Culture ou ministre de la Justice ?
De l'Éducation nationale.
Bien joué, Hubert.
C'est une bonne réponse.
One point.
Premier point, et on passe à la deuxième question.
À 18h50, dans les infos pour briller au dîner, Alex nous a parlé de bison futé, qui nous renseigne sur nos conditions de circulation. Quel est le sigle qui représente bison futé ? Est-ce que c'est une girafe ? Est-ce que c'est un indien ? Ou est-ce que c'est un loup, une renard et une belette ? Un renard et une belette.
Un indien.
Oui !
On n'est clairement pas sur le quiz le plus compliqué de la saison.
Pas besoin de joker.
Je crois que vous êtes plutôt bien tombé, Hubert.
J'étais pas à votre antenne ce soir en plus. Alors.
C'est à l'aveugle. Troisième question.
Alors, notre grand invité. Ah ouais, mais alors là, si vous n'avez pas écouté, vous avez demandé notre joker, c'est sûr.
Ah ouais.
Notre grand invité de la deuxième heure était l'immense Charline Spiteri, la chanteuse de Texas. Elle est très très copine avec un très grand footballeur français. Lequel ? Ouais, en même temps, même pas sûr. Thierry Henry, Martin Terrier dit Terrigno ou Jonathan Clauss dit Johninho 7 ?
Joker.
Ah ouais ? Alors, vous demandez qui ? Alors, vous demandez Vincent ou Julien comme Joker ?
Vincent.
Ah, Vincent, il connaît le football.
C'est Thierry Henry.
Bien joué !
Bien joué, Vincent. Donc, bonne réponse, 3 sur 3, encore une bonne réponse et vous partez en vacances sur Uber.
Alors pareil, si vous n'avez pas écouté, il va falloir demander un joker. Vous avez de la chance d'avoir des jokers quand même. Dans RTL Inside, on vous a fait découvrir un tout petit pays que tout le monde s'arrache, car on y a découvert un énorme gisement de pétrole. Quel est ce pays ? Est-ce que c'est la Turquie ? Est-ce que c'est le Guyana ? Ou est-ce que c'est la Corse ?
Oh là là. Ah
ouais.
Joker.
Ouais, il vous reste Julien comme joker, hein. Mais vous avez de la chance, comme il présente l'émission, il a écouté. Ouais,
oh, a priori, je pense que je vais pouvoir vous aider, Hubert. Et en plus, c'est le point décisif, donc je suis très content de vous envoyer en vacances. C'est le Guyana.
Ah, j'aurais perdu, j'allais dire autre chose.
Vous voulez dire quoi, la Corse?
La Corse.
Oui.
Le pétrole en Corse? Pas encore.
Non, mais surtout jamais, que c'est pas un pays, hein. Enfin, pas encore aussi. Hein.
Oh, bah alors ça. Allez dire ça aux Corses, Cyprien.
Hein, des risques.
Chini, là. Allez dire ça aux Corses de l'autre côté de la Méditerranée. Bravo, cher Hubert, c'est gagné.
Eh ben c'est super.
Vous savez avec qui vous allez partir en vacances? Puisque c'est pour 4 personnes.
Oh, bah oui, on est 4 dans la famille.
Eh ben alors, voilà.
Bah, la chance.
C'est royal. Vous allez pouvoir balader sur la rivière de votre choix. Il y a 18 bases de départ. Et comme vous avez réussi le 4 à la suite et qu'on est un peu joueur, on va vous offrir maintenant la question bonus. Avec enjeu, c'est encore mieux qu'une croisière. Le mug RTL et la montre RTL. On y va, Uber, vous êtes prêts?
Oui.
Dans son info pour briller, Vincent Derosier nous a parlé du premier jeu vidéo de l'histoire qui a été créé par un ingénieur qui travaillait pour une autre invention. Enfin, il travaillait sur une autre invention à l'époque. Laquelle? Est-ce qu'il a inventé la mobilette, la bombe atomique ou l'autocuiseur? Là, vous avez plus de joker, hein, à force de débrouiller, Hubert. Hein.
Alors, entre...
mobilette, bombe atomique ou autocuiseur?
L'autocuiseur.
Ah, non. Ah là là! C'était la bombe atomique.
Bon, Georges Benadi, notre monsieur cadeau, va récupérer une montre, il est content. En revanche, vous avez quand même droit à un ballotin de chocolat de Jeff de Bruges. Parce que c'est Pâques. Gentil.
Ouais, c'est un beau lot de consolation, avant Pâques.
C'est super gentil.
Bon, on est ravis d'avoir pu jouer avec vous, Hubert. Encore bravo, on est très heureux de pouvoir vous envoyer avec toute la famille en vacances. Profitez bien de cette petite croisière fluviale.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.
À très bientôt, cher Hubert.
Au revoir.
À très bientôt. Merci d'avoir joué avec nous, Hubert. Merci à vous tous, les auditeurs. RTL Bonsoir revient évidemment demain à partir de 18h. On s'occupe de vous chaque soir dans RTL Bonsoir. Dans quelques secondes, c'est Flavie Flamand qui va prendre le relais. Là aussi, comme chaque soir, pour jour J. Quel est le programme ce soir, Flavie? Bonsoir.
Bonsoir à tous. Avec nos invités ce soir, on va vous parler de ces fameuses médecines alternatives et complémentaires. Entendez par là l'acupuncture, la naturopathie, l'homéopathie, la médecine ayurvédique, la phytothérapie. Bref, tous ces praticiens que l'on va voir assez facilement pour soigner nos petits bobos. Eh bien, on a des invités qui sont des journalistes scientifiques et qui ont mené l'enquête sur l'efficacité de ces pratiques, voire les dangers et les dérives. C'est dans un instant. À tout de suite.
À tout de suite.
RTL.